jeudi 13 octobre, il est 7h.
Je peux vous annoncer que nous irons en référé pour soutenir tous les salariés qui sont réquisitionnés sur la base du droit international.
Voilà, Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui engage donc le bras de fer avec les pouvoirs publics, vous venez de l'entendre. Il attaque les réquisitions en justice. Le syndicat appelle à la grève générale mardi prochain alors que les blocages se poursuivent dans les raffineries. Total échec des négociations hier chez Esso ExxonMobil. Les premières réquisitions sont tombées hier soir. Nous serons devant le dépôt de Port-Saint-Jérôme en Normandie où l'on a ouvert le robinet pour alimenter les stations-service d'Île-de-France. Dans ce journal également, Emmanuel Macron annonce l'envoi de nouvelles armes à l'Ukraine. Et puis le football, Marseille se relance en Ligue des Champions, victoire des Olympiens 2-0 face au Sporting Portugal hier soir.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'essence continue de couler au compte-gouttes. On fera le point sur les négociations dans un instant avec Baptiste Morin. Sur ce front, les nouvelles ne sont pas bonnes. Du côté de l'approvisionnement, en revanche, l'espoir d'un léger mieux renaît au moins pour les automobilistes franciliens. On part tout de suite au Havre, devant le dépôt Esso ExxonMobil de Port-Jérôme. Le site alimente toute la région parisienne. C'est là que les premiers grévistes ont été réquisitionnés hier par l'État. Bonjour Guillaume Dominguez.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au Havre. Est-ce que les robinets ont bien été rouverts ?
Oui, ici le dépôt de carburant a repris son activité, bon, contraint et forcé, mais au total, 4 réquisitions ont été ordonnées hier soir. 2 opérateurs ont donc débloqué les vannes de l'oléoduc direction Gennevilliers et 2 autres ont repris la relève ce matin, comme nous le confirme Reynald Prévost, délégué syndical Force Ouvrière de la raffinerie.
Donc il y a des carburants qui sortent, le dépôt libre est ouvert et il y a des camions qui sortent. Tant que le référé n'est pas acté, il n'y a pas de résultat, ça va être comme ça tout le temps.
Voilà, en parallèle, la grève a été partiellement reconduite ce matin. Les partenaires sociaux nous confirment que dans la raffinerie, 5 secteurs sur 7 sont toujours à l'arrêt. Mais dans les faits, plusieurs salariés m'ont confié ce matin qu'il n'y aurait en réalité que 10% du personnel en grève. Un essoufflement que confirme à contre-cœur Reynald Prévost.
Obligatoirement, ça s'essouffle. Il y a un accord qui est signé, ça a été médiatisé. Voilà, on était sur du local. Et là, on a été pris en otage par la politique, parce qu'ils nous soutiennent, après, c'est une bonne chose. Mais nous, on ne voulait pas se retrouver dans un mouvement comme ça. Maintenant, on verra par la suite ce qui va se passer. Mais oui, un essoufflement, de voir toutes les caméras et tout, ça risque de poser des questions aussi, c'est normal.
Voilà la faute donc au soutien politique et aux médias, une certaine tension d'ailleurs qui se ressent ce matin. La presse n'a pas été conviée à l'Assemblée Générale de reconduction de grève, c'était tout à l'heure à 6h.
Guillaume Dominguez en direct du dépôt Esso de Port-Jérôme au Havre. La réquisition du carburant vise son expédition mais pas son raffinage, autrement dit la transformation du pétrole en essence ou en diesel reste bloquée pour l'instant puisque la raffinerie est encore à l'arrêt.
Alors nous étions à l'instant au point de départ de ce pipeline qui alimente la région parisienne. On va maintenant à l'arrivée, c'est-à-dire au dépôt de Gennevilliers, ça c'est tout près de Paris. Bonjour Caroline Baudry.
Bonjour.
Alors, les camions citernes sont-ils là ce matin ?
Oui, ils défilent devant moi, passent l'entrée très sécurisée du dépôt de carburant. Mais comme d'habitude, m'explique un opérateur devant la grille, puisque les immenses réservoirs blancs qui se trouvent derrière lui sont toujours alimentés, mais par d'autres raffineries. Pas d'informations ce matin ici sur l'ouverture du pipeline Esso.
Mais là aujourd'hui, on n'a pas de livraison prévue. De ce point d'origine. Ça fait peut-être 2 ou 3 semaines, parce que généralement, les livraisons, les approvisionnements de Esso, on en a très régulièrement. Puis là, d'avoir un trou aussi important en termes de jours, effectivement, oui, c'est assez inhabituel. Ça sera certainement débloqué plus en journée, mais là, pour le moment, c'est trop tôt.
Un déblocage attendu, imminent, qui pourrait mettre fin à une situation qui n'a jamais été aussi critique. Selon lui, plus de 16,5 millions de tonnes de produits passent chaque année dans ce pipeline. Plus de la moitié est destinée à la région parisienne, ici, à ses aéroports. Et cela représente un quart de la consommation en France.
Caroline Baudry en direct du dépôt de Gennevilliers en région parisienne.
Alors, vous voyez, lueur d'espoir sur le front de l'approvisionnement des stations-service. Ça ne veut pas dire que la sortie de crise est imminente. Chez Total Energy, le dialogue de sourds continue.
Et on peut même parler de situation au point mort, on va voir ça avec vous. Baptiste Morin, bonjour.
Bonjour.
Les négociations n'ont pas commencé entre la CGT et la direction de Total. On est d'accord sur rien, y compris sur la façon de se mettre autour de la table des discussions.
Oui, pourtant hier, la CGT a rencontré la direction de Total Energy. Première discussion depuis le début du mouvement. Discussion d'une heure et au bout du compte, une proposition de Total Energy de changer ses conditions pour ouvrir ces fameuses négociations salariales. Plus question d'une fin de la grève, Total Energy se contentait d'une fin du blocage des dépôts. Les raffineries, elles, pouvaient rester bloquées selon Total. Proposition soumise tard hier soir aux grévistes et refusée catégoriquement et massivement. Le conflit est aussi entré dans une nouvelle phase hier avec l'annonce par Philippe Martinez, le patron de la CGT, du dépôt d'un référé aujourd'hui pour s'opposer aux réquisitions ordonnées par l'État. La CGT qui appelle même de ses voeux les salariés d'autres secteurs à entrer en grève eux aussi. Et ce matin, les pénuries se prolongent dans les stations-service. Situation à peu près du même acabit. Hier, une station-service sur trois est toujours en manque d'un ou de plusieurs carburants, et ce sur tout le territoire français.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Et ce conflit prend sa source dans les résultats exceptionnels enregistrés par Total. Le groupe a versé plus de 2,5 milliards de dividendes aux actionnaires. Hasard de l'actualité, en plein débat sur le budget à l'Assemblée, les députés ont adopté cette nuit une taxe sur les super-profits contre l'avis du gouvernement. L'amendement du Modem prévoit une majoration de 5% de la taxe sur les dividendes des grandes entreprises.
Voilà, on en parlera avec Sacha Houlier, le président de la commission des lois. Il sera à 8h13 l'invité de Europe Matin, et il était évidemment à l'Assemblée nationale hier. Grève dans le secteur des carburants. Grève, on en parle aussi un petit peu moins, dans les centrales nucléaires.
Les salariés réclament également des augmentations de salaire. 5 centrales concernées, Tricastin dans la Drôme, Cruas en Ardèche, Bugey dans l'Ain, Cattenom en Moselle. La centrale de Gravelines dans le Nord vient de se joindre au mouvement. C'est la plus puissante en Europe de l'Ouest.
7h06 sur Europe 1, les Nations Unies condamnent à une large majorité l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie.
143 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. La Chine et l'Inde ont notamment refusé de se prononcer. La résolution appelle les États à ne pas reconnaître ces annexions. Le président américain Joe Biden salue un message clair envoyé à Moscou.
Et puis les Occidentaux sont déterminés à poursuivre leur livraison d'armes à l'Ukraine.
Soutien sans faille du G7 et du FMI. Le Royaume-Uni va livrer des missiles de défense anti-aérienne. L'Union européenne s'engage à former les militaires ukrainiens, 15 000 soldats concernés dans un premier temps. La France prendra sa part et Paris va accroître ses livraisons d'armes. Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir, Arthur Delaborde.
Oui, Emmanuel Macron confirme la livraison de 6 canons César supplémentaires qui seront en quelque sorte prélevés sur une promesse de vente au Danemark. Cela signifie concrètement qu'un tiers de ces armes fleurons de l'artillerie française seront bientôt en Ukraine. Mais le fait nouveau, c'est surtout que le chef de l'État accepte de fournir du matériel anti-aérien.
Et ce qu'on va livrer, ce sont des radars et des systèmes avec des missiles anti-aériens, en particulier pour les protéger des attaques de drones et des attaques de missiles.
Emmanuel Macron ne donne pas de détails sur le matériel en question, mais il répond en tout cas favorablement à une demande répétée de Kiev. Autre élément important sur le plan politique, cette fois le président maintient sa conviction qu'à un moment donné, il faudra négocier. C'est pour ça, dit-il, qu'il continuera à parler avec Vladimir Poutine. Il considère aussi que même s'il refuse de le faire pour le moment, négocier est dans l'intérêt des Ukrainiens.
Négocier, ça ne veut pas dire renoncer. Mais ça veut dire que nous devons tout faire pour que la paix revienne.
Emmanuel Macron, qui toutefois le reconnaît, des négociations n'interviendront pas dans les jours ou les semaines qui viennent, tant les positions paraissent à ce stade irréconciliables.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Un mot de sport, le foot. L'espoir renaît pour Marseille en Ligue des Champions.
Allez, victoire 2-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. L'OM remonte à la deuxième place de son groupe. 4 clubs français engagés aujourd'hui en Europa League et en Europa League Conférence. Monaco, Rennes, Nantes et Nice.
Merci beaucoup. Tiens, au chapitre des sports, je vous signale aussi que Philippe Bana, le président de la Fédération française de handball, sera ce jeudi à 20h l'invité des décideurs du sport au micro de Jacques Vendroux et Virginie Fulpin dans Europe 1 Sport. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans un instant, nous parlerons des centrales nucléaires. Elles aussi sont en grève depuis un petit moment. À tout de suite.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
C'est l'autre grève du moment dans le secteur de l'énergie. Elle était masquée par celle des raffineries et des dépôts de carburant. C'est celle qui perturbe depuis plusieurs semaines certaines centrales nucléaires d'EDF, Cattenom, Tricastin, Cruas, Le Bugey et la grande centrale de Gravelines. 6 réacteurs doivent rejoindre le mouvement ce matin. Nous sommes en ligne ce matin avec vous, Virginie Hinemeyer. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes déléguée syndicale chez EDF de la Fédération CGT des mines et de l'énergie. Cette grève, Virginie Hinemeyer, chez EDF dans les centrales, pourquoi faire ? Le mot d'ordre est-il le même que chez les pétroliers, à savoir les salaires ?
Alors, ce n'est pas un mot d'ordre, mais c'est bien à partir des revendications des salariés que nous avons engagé depuis courant septembre les mouvements site après site, les salariés syndicalistes et les grévistes, sur la question salariale qui est centrale pour compenser l'inflation.
Alors, il y a eu des négociations au sein de la branche gaz-électricité la semaine dernière. Elles ont abouti à une proposition d'augmentation générale de 3,6%. Vous estimez que c'est insuffisant? EDF doit aller plus loin que la négociation de branche?
Ben, aujourd'hui, au regard de justement de la question de l'inflation, c'est largement insuffisant aux yeux des salariés. Ils ont des attentes légitimes sur les questions salariales, notamment aussi sur l'ensemble des conditions de travail, l'adéquation charges-ressources. Et nous attendons effectivement un point de rendez-vous au niveau de l'entreprise, au niveau d'EDF, sur les négociations salariales qui doivent s'ouvrir probablement les prochains jours, mais nous n'avons pas de date aujourd'hui.
Puis-je vous demander, Virginie Neumayer, combien gagne un opérateur de centrale nucléaire chez EDF ?
Alors, les salaires sont variés en fonction de l'ancienneté, des habilitations, du niveau de formation et d'expérience professionnelle. Alors, sur le salaire, on va dire net, on est autour de 2400 à 2500 net. Après, vous ajoutez en fait les contraintes liées à l'emploi, c'est-à-dire le travail 24 heures sur 24, 24, 7 jours sur 7, y compris le dimanche, jour férié, plus l'exposition à ce qu'on appelle effectivement un certain nombre de contraintes liées au nucléaire qui ne sont pas si simples que ça, nous arrivons environ à 1,5 à 1,8 fois la rémunération principale, la rémunération salariale.
Bon, Virginie Neumayer, ce qui intéresse aussi les Français par-delà la grève elle-même, c'est que le niveau de production d'électricité en ce moment, on le sait, est très limité compte tenu du nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt pour maintenance. Est-ce que votre grève, la grève qui est en cours actuellement chez EDF, va faire encore baisser la production électrique ?
Alors la CGT sera extrêmement vigilante à ce que les salariés ne soient pas tenus responsables de la situation concernant l'équilibre production-consommation sur le réseau électrique, parce que nous alertons depuis 2017 sur le manque de marge de production pilotable sur le réseau. En cause, la fermeture successive du parc thermique et des centrales de Fessenheim qui nous ont conduit à la situation actuelle à l'entrée de l'hiver. Donc ce n'est pas faute d'avoir fait des propositions et d'avoir dénoncé une situation parce qu'on a dramatiquement sous-estimé la demande en électricité et tout ce qui est rare est cher. Mm-hmm. On voit aujourd'hui aussi l'effet sur les prix pour les usagers. Nous avons aussi des propositions en ce sens pour les usagers. Et oui, c'est une situation extrêmement difficile et depuis maintenant plusieurs mois, les salariés ont fait le maximum pour remettre sur le réseau le maximum de réacteurs.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que la grève va impacter la production, est-ce qu'elle va baisser du fait même du mouvement social ?
Là aujourd'hui, certains travaux de maintenance sont suspendus de par les grévistes et effectivement, il y a un effet de maintenance, puisque ce sont des centrales qui sont à l'arrêt et qui nécessitent effectivement des interventions pour pouvoir coupler dans les meilleurs délais, c'est-à-dire remettre sur le réseau, remettre en service ces réacteurs.
Voilà, c'est ça. Vous retardez le retour sur le réseau de certains réacteurs qui sont actuellement à l'arrêt, mais les réacteurs fonctionnels, eux, pour le moment, il n'est pas question de baisser la puissance de production.
Ah non, puisque nous sommes tenus à des missions de service public aujourd'hui, et c'est aussi de nos obligations de contrat de travail. La production est tellement tendue aujourd'hui sur le réseau que nous ne pouvons pas intervenir sur les réacteurs en fonctionnement.
Oui, mais c'est une précision d'importance. Il était nécessaire que vous la fassiez, Virginie Neumayer. Autre question, vous dénoncez par ailleurs le recours aux réquisitions que l'on a pu observer notamment auprès de 4 salariés seulement d'Esso ExxonMobil où un accord salarial a été signé. Qu'est-ce qui vous choque dans ce recours quand même extrêmement ciblé et argumenté aux réquisitions ?
Alors d'abord, le secteur nucléaire est aussi concerné par les questions de réquisition, mais avant tout, pour nous, ça indique une certaine fébrilité de la part du gouvernement qui a acculé sur les questions énergétiques et sociales.
Les Français aussi, Virginie Neumayer, il n'y a pas que la situation dans les stations-service.
Oui, sauf que ça ne règle rien sur le fond. On a vérifié que la question de la réquisition, on a démontré nullement son efficacité pour que les salariés remettent au plus vite les installations, on va dire, en service, et y compris dans le temps. C'est fait preuve toujours d'une inefficacité, et le gouvernement serait bien, on va dire, tenter de plutôt réquisitionner les super profits que les grévistes. Me semble-t-il, ça réglerait un certain nombre de choses.
Réquisitionner les super profits, c'est ça que vous venez de dire, Virginie Neumeyer ?
Oui.
Oui. Mais de quelle manière ? Enfin, à quoi vous pensez ? Vous songez à une taxe ? Il faudrait taxer les dividendes des entreprises, c'est ça ?
Alors, bien évidemment, dans la période, la question des super profits, puisque...
Est-ce que vous avez vu que la France défend l'idée peut-être d'une contribution ponctuelle compte tenu des circonstances, mais pas nécessairement d'une taxe qui pourrait s'avérer pérenne ? Et à ce moment-là, les enjeux seraient autres. Hein.
Vous venez de faire ma réponse. Les taxes sur les super profits doivent être pérennes et doivent répondre à l'intérêt général de la nation et des usagers. Aujourd'hui, on voit que les questions énergétiques, elles sont aussi centrales, bien sûr, pour pouvoir compenser un niveau de la vie qui est de plus en plus cher, mais aussi est un levier de développement économique. On a vu un certain nombre d'entreprises fermer dans la période hivernale ou qui vont bientôt fermer à cause de cette question-là. Donc, c'est un enjeu national.
J'ai une dernière question rapidement, Virginie Neumeyer. Tout à l'heure, un syndicaliste de la centrale de Gravelines dans le journal de 6h30 sur Europe 1 disait « Rassurez-vous, les hôpitaux ne seront pas touchés s'il y a des coupures d'électricité par endroit. Ce seront dans les entreprises du CAC 40. » Comment un salarié de centrale nucléaire peut-il garantir cela ?
Alors, donc, c'est le réseau de transport d'électricité qui a cette charge-là, en fait, de prioriser, on va dire, les coupures tournantes qui devraient intervenir en cas de défaut, voilà, de production sur le réseau, et d'appel aussi aux interconnexions. Oui. Donc, ils devront prioriser, parce qu'ils ont plusieurs leviers, en fait, hein, pour agir sur le réseau, et de la responsabilité, en fait, des pouvoirs publics de commander, en fait, les ordres de priorité sur le réseau.
D'accord. Donc, vous nous dites que le mouvement pourrait s'étendre aux salariés du réseau, que ce soit Enedis ou RTE.
Je ne lis pas dans une boule de cristal. D'accord. Mais je vous dis aujourd'hui, en tant que syndicaliste, que les attentes sont fortes sur les questions salariales, que sur la question, par exemple, du RTE que nous connaissons, parce que nous sommes dans la même fédération, il y a aussi des sujets sociaux explosifs, hein, on va le dire comme ça, et qu'effectivement, aujourd'hui, le contexte favorise la convergence des luttes.
Merci Virginie Neumeyer d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes déléguée syndicale chez EDF, la fédération CGT Mines Énergie. Bonne journée à vous, il est 7h20.
Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
Allez, place à l'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri.
Attendez, vous allez à la marche contre la vie chère et l'inaction climatique ce dimanche, Nicolas ?
Écoutez, je vais vous dire, Dimitri, je comprends qu'on puisse y aller parce que oui, la vie est chère, l'inflation est supérieure à 5%, c'est nettement au-dessus des augmentations de salaire. Ça veut dire que le pouvoir d'achat des gens qui travaillent recule. Pire que ça, le pouvoir d'achat recule alors que les salaires en France sont assez bas. Je vous redonne quelques éléments de comparaison issus des statistiques de l'OCDE. Ce sont des salaires nets annuels moyens corrigés des différences de prix. La moyenne de l'OCDE est à 51 600 dollars, les États-Unis sont à 75 000 dollars, l'Allemagne à 56 000, la France à 49 300. Donc oui, très objectivement, les salaires en France ne sont pas très élevés.
On est sous la moyenne OCDE, décidément. Pourquoi vous n'y allez pas finalement à cette marche contre la vie chère ?
Écoutez, le but est louable et parfaitement justifiable, mais je suis allé voir le site marche16octobre.fr pour regarder les arguments. Et là, malheureusement, j'ai découvert pas mal d'inepties qu'on retrouve d'ailleurs dans l'appel des intellectuels à manifester. Déjà, cette marche s'appelle « Contre la vie chère et l'inaction climatique ». Alors, le lien pouvoir d'achat climat peut s'entendre. Hein. Le président Biden aux États-Unis vient de faire passer un plan anti-inflation qui est aussi un plan contre les émissions de carbone avec des subventions pour les énergies renouvelables, pour l'isolation des maisons, pour la capture de CO2, très bien. Mais en France, ceux qui reprennent le terme d'inaction climatique sont en général des partisans de la décroissance, c'est-à-dire du recul du pouvoir d'achat et de la régression sociale. Un petit peu plus loin sur le site, je lis « Le pouvoir macroniste refuse d'augmenter les salaires ». Alors bon, je sais bien qu'on est dans un état dirigiste, hein, mais enfin, ce n'est pas l'État qui fixe les salaires. Ceux qu'il fixe comme ceux des fonctionnaires, il les a augmentés. Hein, le point d'indice a augmenté de 3,5% au mois de juillet, avec...
les primes et les avancements, ça fera plus que l'inflation. Et heureusement, c'est très bien. Très honnêtement, les arguments de ce site sont très caricaturaux.
Bon, les organisateurs de cette marche, ils ont tort sur tout, d'après vous, Nicolas ?
Non, bien sûr que non, Dimitri. Je l'ai dit, la question des salaires et du pouvoir d'achat, elle est absolument légitime. Mais c'est toujours le même problème. On a un gros problème de pouvoir d'achat et de salaire et on l'analyse par la lutte des classes en faisant le procès des profits et des dividendes. Et c'est à côté de la plaque. Du coup, on ne s'attaque pas aux causes profondes. On ne s'attaque pas au manque d'investissement des entreprises, au manque de capital, au problème de l'éducation qui est très inégale en France, à notre système de formation continue qui n'est pas vraiment continu. Nous ne voulons pas voir que nos problèmes sociaux prennent leur source très en amont de la question salariale. Je vous l'assure, Dimitri, la vie est chère, mais elle le paraîtrait moins si nos entreprises étaient plus performantes et si elles pouvaient verser de meilleurs salaires.
D'ailleurs, vous regarderez, les salariés de chez Total, ils réclament pas la taxe sur les super profits. Merci beaucoup.
Absolument.
Nicolas Bouzou, bonne journée à vous.
À lundi.
À lundi.
Europe Matin.
Alban Le Prince pour le journal permanent sur Europe.
Les premières réquisitions sont tombées chez Soexon Mobile en Normandie. La CGT, qui dénonce une entrave au droit de grève, déposera tout à l'heure un référé, annonce de Philippe Martinez, son secrétaire général. Le secteur de l'électricité s'y met aussi. 4 centrales nucléaires en grève pour demander des augmentations. Une cinquième débraye aujourd'hui, celle de Gravelines dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest. Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin le dernier baromètre de l'immobilier Guy Hoquet. Il nous apprend notamment que le prix des maisons a flambé cette année, plus 10,9%. Et puis du foot, cela faisait 11 ans que ça n'était pas arrivé. L'OM qui gagne à l'extérieur en Ligue des Champions. Et bien hier, Marseille a relevé le défi en battant le Sporting Portugal. Résultat 2-0.
Cet adversaire,
allô, Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Il y a 65 ans, apparaissait en Chine un virus qu'on appellera la grippe asiatique. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Voilà, c'est une pandémie longtemps oubliée, mais le Covid nous a depuis rafraîchi la mémoire. Nous remontons avec vous ce matin, Laure, en 1957. La France prend alors ce mystérieux virus très au sérieux.
Oui, cette grippe se répand dans les pays asiatiques avant d'atteindre l'Amérique et l'Europe. En région parisienne, des contrôles sanitaires ont lieu à l'aéroport d'Orly en juin 1957.
Veuillez présenter vos certificats de vaccination, s'il vous plaît.
D'un côté, le médecin et son infirmière, et de l'autre, la passagère.
Les premiers symptômes que vous avez éprouvés, c'est longtemps après l'envol ?
Oh, à peu près une heure, docteur. Je ne pouvais pas très bien respirer.
Voulez-vous passer le cytoscope, s'il vous plaît ? Dit 33.
33 ?
Voilà pour le témoignage de cette femme qui arrivait de Bombay en Inde. Les antibiotiques ne peuvent rien pour enrayer cette pandémie. On recommande aux gens de se reposer et d'éviter les rassemblements. Le comédien Francis Blanche a eu la grippe asiatique et il témoigne sur Europe 1.
On n'est jamais entièrement guéri de la grippe asiatique. Il en reste toujours quelque chose. Voilà des gens qui vont être marqués pour la vie maintenant. En tout cas, j'en ai conservé ça très nettement. Les jambes coupées, les bras coupés, le nez coupé, les oreilles coupées. Enfin, il ne me reste plus grand-chose.
Et chez certaines personnes, la grippe asiatique entraîne des complications pulmonaires.
Alors, un vaccin contre ce virus asiatique est mis au point à l'été 57.
Oui, mais il n'est disponible qu'en petite quantité. Des séances de vaccination collective sont mises en place, par exemple, en octobre 1957, dans la caserne de pompiers de Lyon.
C'est une injection sous-cutanée d'un vaccin préparé par les laboratoires Mérieux à Lyon.
Cette piqûre est la seule, vous devez en faire une autre.
On doit en faire une deuxième, soit à 10 jours, soit à 15 jours d'intervalle.
Et à l'époque, on peut aussi aller chercher le vaccin chez le pharmacien, dit ce médecin.
Vous pouvez me donner une ordonnance ? Avec cette ordonnance, le pharmacien me donnera du vaccin.
Merci. S'il peut s'en procurer.
Mais les pharmacies sont vides à l'été 57. Seuls les médecins et les infirmiers peuvent alors se faire vacciner. L'épidémie connaît une nouvelle vague à l'automne 1957. La grippe asiatique fera 100 000 morts en France. Elle se termine quelques mois plus tard, en 1958.
Ah, c'est fou la symétrie des situations. Merci, Laure d'Autriche. Reportage Europe 1. Dans quelques minutes, à la raffinerie Total de Donges, c'est la dernière entrée en grève. On ira tâter l'ambiance parmi les raffineurs. 7h27. Bon.
Europe Matin.
7h, 9h.
Dimitri. Dimitri Pavlenko.
À la une ce matin du carburant dans les stations-service avant les vacances de la Toussaint. C'est l'engagement pris par Emmanuel Macron hier soir. Le président n'exclut pas de nouvelles réquisitions. La CGT a rejeté cette nuit le deal proposé par la direction de Total Energy. Dans ce journal, nous partirons près de Toulouse. Un centre d'accueil pour migrants crée la polémique. Le maire dénonce un projet disproportionné pour sa commune. Reportage à suivre. Et puis, c'est une mauvaise habitude que l'on a tous ou presque, la procrastination. Remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Paraît-il que c'est lié à notre cerveau. Vous allez comprendre à la fin de ce journal. Un journal présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Un bras de fer. La CGT tient tête à Total Energy. Le syndicat a rejeté cette nuit la proposition de la direction. Bilan des négociations à l'arrêt, comme les livraisons de carburant ce matin. Un dialogue social qui fait pchit avec la menace de nouvelles réquisitions.
Et c'est déjà le cas chez Esso, ExxonMobil. Une poignée de salariés de la raffinerie de Seine-Maritime de Port-Jérôme, où nous étions tout à l'heure à 7h, a repris le travail contraint et forcé pour approvisionner les stations-service d'Île-de-France.
Alors celle de l'ouest de la France, en revanche, sont encore remplies malgré le blocage de la raffinerie de Donges en Loire-Atlantique. Un site contourné, la parade, les camions-citernes passent par un autre dépôt. Solution précaire, temporaire. Le reportage de Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest.
Au volant de son camion, Jean-Louis s'apprête à aller remplir sa citerne.
Vous allez où là ?
Je vais charger.
Charger jusqu'à 39 000 litres de carburant à Donges, c'est donc encore possible, alors même que la raffinerie Total est soumise à un blocus depuis hier matin. Seulement voilà, à quelques kilomètres de là, un autre dépôt, lui, fonctionne toujours.
J'ai commencé à 4h30, on est arrivé à 5h et ils nous ont dit qu'on faisait grève chez Total.
Et alors du coup, vous avez fait quoi après ?
J'ai changé de client.
Et là, on est où là ?
À la SFDM.
La SFDM, un site détenu à 95% par l'État. C'est ici, après avoir été refoulé de chez Total, que les camions-citernes ont ainsi convergé massivement, comme l'a constaté Stéphane, qui patiente lui depuis près d'une heure et demie au volant, qu'une ligne de ravitaillement se libère.
Habituellement, ils ont fait 3/4 d'heure, 1 heure de queue. On s'attendait plus à 3-4 heures d'attente, parce qu'on sait que quand il y a des événements comme ça, c'est compliqué. Il y a tellement de monde, parce qu'ils ne peuvent plus charger ailleurs, donc ils viennent là où il y a du produit, et comme ici il y en a, ils viennent. Ça se trouve, demain on va venir, ils nous diront qu'il n'y a plus de produit, on ne sait pas.
Et pour l'instant, du carburant, il y en a. La plupart des chauffeurs rencontrés hier après-midi en étaient même à leur deuxième, voire troisième rotation de la journée, et les approvisionnements concernaient des stations situées dans tout l'Ouest.
J'ai chargé, je vais livrer.
Donges, Charles Guyard, Europe 1.
Des livraisons précieuses attendues par les automobilistes. Comptez encore 7 à 10 jours de galère. C'est en tout cas l'engagement d'Emmanuel Macron qui a annoncé hier soir un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine. La CGT, elle, a un autre programme. Appel à la grève nationale dès mardi, le 18 octobre. Un mouvement contre les réquisitions et pour la hausse des salaires. Des augmentations, c'est aussi ce que réclament les salariés du nucléaire. Dans le secteur, la grève gagne aussi du terrain. Le site de Gravelines, dans le nord, le plus puissant d'Europe de l'Ouest, rejoint la mobilisation ce matin. Une grogne qui concerne désormais 5 centrales, 8 réacteurs. La France en compte plus d'une cinquantaine. Margot Federic, quelles sont les conséquences de cette grève ?
Eh bien, elles seront limitées car l'exploitation des centrales nucléaires est très encadrée. Peu de conséquences sur la production d'abord, puisqu'en tant que chargé de service public, EDF a l'obligation de fournir de l'électricité aux Français et doit donc maintenir l'activité, comme l'entreprise l'a déjà fait par exemple pendant la crise du Covid, rappelle Emmanuelle Galichet, enseignante en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers à Paris.
EDF faisant de la production d'électricité et l'électricité étant un bien public, les autorités du pays doivent pouvoir intervenir de manière à obliger qu'il y ait assez de personnes en salle de conduite des cœurs de réacteurs.
Pas de conséquences non plus sur la sûreté nucléaire. Dans une salle de conduite, un salarié gréviste est automatiquement remplacé pour respecter justement les normes de sécurité.
EDF est obligé d'avoir un nombre de personnes responsables de la production électrique, faire face à toutes les situations incidentelles ou accidentelles qui peuvent arriver.
Pour le moment, 8 tranches sont bloquées et les grèves seront reconduites à minima jusqu'à la fin des négociations salariales qui débuteront la semaine prochaine, nous assure un représentant de la division production nucléaire de la CGT.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.
7h34. Voilà, c'est presque compréhensible comme ça. Abba Khamenei, leurs cris ne faiblissent pas.
Oui, celui des manifestants en Iran qui réclament le départ du leader de la révolution. C'était hier à Téhéran. Il y a un mois, jour pour jour, la jeune Mahsa Amini était arrêtée par la police des mœurs. Depuis, plus de 100 personnes sont mortes sous la répression du régime. Les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord hier soir pour sanctionner les responsables via notamment le gel de leurs avoirs.
Retour en France, direction la région toulousaine. Dans une commune, une banderole barre la façade de la la mairie. Protestation contre un centre d'accueil pour migrants.
Oui, nous partons à Saint-Lys, 9000 habitants au nord de la ville rose, là où un centre de préparation au retour doit ouvrir dans une ancienne maison de retraite. 120 personnes hébergées entre 1 et 3 mois avant leur expulsion du territoire. Le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Péter, a rencontré le maire qui dénonce un projet imposé par l'État et surtout démesuré face aux équipements de sa commune.
Ça me déplaît énormément avec toutes les nuisances que ça peut engendrer. Des vols, des agressions, ça inquiète.
Ce centre de préparation au retour, comme beaucoup de Saint-Lysiens, Gérard n'en veut pas. En gros, sur le fronton de la mairie, on peut lire non au projet imposé par l'État. C'est au printemps 2021, sans jamais avoir été concerté, que la ville a découvert qu'il allait voir le jour. Le maire Serge Deuillet n'est pas opposé à accueillir ces étrangers déboutés de leur demande d'asile le temps qu'ils rentrent dans leur pays, mais pas autant.
On est prêt à accueillir une partie, mais pas à ce niveau-là. Ça fait trop de monde. Et quand on nous oppose la rentabilité économique, je crois que là, on n'est pas à parler de rentabilité économique. Participer, mais de manière raisonner.
Lui souhaiterait que son village ne soit pas le seul mis à contribution. Initialement, le centre devait accueillir 160 personnes, puis la préfecture a proposé 120. Mais pour Pierre, le principal problème, c'est que contrairement à un centre de rétention, celui-ci ne sera pas fermé.
Ils pourront rentrer et sortir comme ils voudront. Mais les gens commencent à s'intéresser de savoir comment ils vont sécuriser leur maison. Pour mettre des caméras, des détecteurs de présence, ça commence. Il y a la folie qui commence à grandir. Saint-Lys n'est pas fait pour ça.
Cathy n'en est pas là, mais elle craint pour la tranquillité de cette petite ville périurbaine.
On a déjà pas mal de petits délinquants qui traînent. Donc on se dit que qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces gens-là. On comprend qu'il faut quand même tendre la main, les aider, mais ça fait un petit peu peur.
Alors une réunion publique doit avoir lieu lundi prochain avec la préfecture et le groupe privé Adoma qui sera en charge de la gestion du centre pour permettre aux habitants d'exprimer leurs inquiétudes. À Saint-Lys, Benjamin Péter, Europe 1.
7h37, payer sa taxe foncière, bon ça peut attendre. Faire la vaisselle, leur passage, promis, je le ferai demain. Bienvenue dans le quotidien d'un procrastinateur. Vous savez, repousser au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. C'est votre cas, Dimitri, ou pas?
Écoutez, à chaque jour suffit sa peine.
Ah,
voilà,
d'accord.
Ce que je vous répondrai, Romane.
Bon, moi, je plaide coupable. J'avoue que le ménage, c'est un peu mon point faible. Une chose est sûre, on l'a tous fait, allez, au moins une fois. Alors, comment expliquer ce comportement? Une mauvaise habitude, hein, on peut le dire. Une équipe de l'INSERM, de la PHP et du CNRS se sont posé la question et les chercheurs ont identifié la zone du cerveau où tout se joue. Yasmina Katou.
C'est juste derrière votre front qu'une partie de votre cerveau s'active pour répondre à la question « Est-ce que je fais cette corvée maintenant ou est-ce que je la reporte à demain ?» En quelques secondes, le cortex cingulaire antérieur fait un calcul coût-bénéfice. Chez les procrastinateurs, ce calcul est fait d'une certaine manière. Raphaël Lebouc est neurologue et co-auteur de l'étude.
Les procrastinateurs, ils ont tendance à décompter les efforts plus vite qu'ils ne décomptent les récompenses. Quand ils imaginent de repousser une tâche, eh bien, la tâche leur paraît beaucoup moins pénible à envisager, mais elle n'est pas tellement moins récompensante. Alors qu'une personne qui a tendance à peu ou pas procrastiner, décompte les récompenses plus vite que les efforts. Imaginez de repousser la tâche dans le temps, ça lui paraîtra tout aussi pénible. Et donc il aura tendance à la faire beaucoup plus vite.
L'étude ne dit pas si l'on est procrastinateur ou si on le devient avec le temps, mais cette découverte sur le mécanisme de procrastination pourrait aider à développer des stratégies pour ne plus reporter des tâches au lendemain.
Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Et voilà une tâche que vous ne devez pas repousser, lire du Annie Ernaux. L'écrivaine, vous savez, a reçu le prix Nobel de littérature la semaine dernière et depuis, ses livres s'arrache. 900 000 exemplaires sont en cours de réimpression chez Gallimard, son éditeur. Pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus que l'ouvrage de Patrick Modiano, autre prix Nobel en 2014.
Voilà, Annie Ernaux, Nicolas Caro, on sait bien ou pas? Vous aimez bien? Vous aimez?
En tout cas, c'est un phénomène, ouais. C'est d'époque.
Comme
c'est
je vais dire, j'ai employé un mot qui est très à la mode, c'est clivant. Voilà,
c'est
Annie Ernaux.
C'est un peu clivant, ça ne l'a pas toujours été, mais ça le devient. Avec le prix Nobel, ça fait d'air. Ouais. Donc, c'est
donne...
un prix Nobel français.
Il y a, ça, ce, y a ceux à qui ce Nobel donne surtout envie de relire Michel Houellebecq. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est très drôle. Merci, Romain.
900 000, c'est un chiffre gigantesque.
Ah oui, pour un livre, c'est vrai. Tiens, vous en avez un sympa aussi avec vous. C'est le nouveau Philippe Génada.
Hors série, un truc fou.
Sa contre-enquête sur le meurtre de Pompignac. Vous nous racontez ça dans un instant. Ce sera après l'édito international de Vincent Hervouet. Quand la belliqueuse Turquie en Méditerranée se rêve en pacificatrice sur les rives de la mer Noire. A tout de suite.
Europe Matin. Dimitri Pavlenko.
Vous aimez les faits divers, vous allez adorer le dernier Génada. C'est devenu un peu le spécialiste, Nicolas Caro.
C'est le livre que Génada ne voulait pas écrire.
Eh bien, il
c'est
l'a fait.
Hors série.
Et vous nous le racontez dans un instant. Marie Jiquel est avec nous aussi. Bonjour Marie.
Bonjour Dimitri.
Un spectacle cirque-rock ce matin.
Oui, de la batterie au programme et du jonglage.
Bon, super programme. Mais d'abord, l'éditeur international Vincent Hervouet, bonjour.
Bonjour Dimitri.
Vladimir Poutine a rendez-vous ce matin avec le président turc Recep Erdogan. Va lui proposer proposer une médiation sur l'Ukraine.
Oui, c'est le Kremlin qui l'annonce. Il dit s'attendre à une proposition concrète. Il ne dit pas qu'il l'espère, mais il s'en félicite quand même. Il ajoute que s'il doit y avoir un jour des contacts directs avec les Ukrainiens, eh bien ça se passera en Turquie. Et voici ainsi récompensé Recep Tayyip Erdogan. Depuis 15 ans, il est prêt à tout pour peser sur la scène internationale. Eh bien, ça y est, c'est fait. On a pris l'habitude des colères d'Erdogan contre l'Europe, qu'il défie l'OTAN, incrimine Israël et les États-Unis ou fasse chanter l'Allemagne. On a vu ses drones et ses mercenaires islamistes tailler en pièces les artilleurs arméniens dans la guerre du Karabakh, repousser les assauts du général Haftar dans la guerre en Libye, patrouiller au-dessus des fiefs en Syrie ou menacer la Grèce, mais son ambition ne se cantonne pas à la Méditerranée. Il se voit en paire de tous les Turkmènes, de tous les turcophones, des banlieues d'Alsace jusqu'à Chypre et du Caucase jusqu'aux portes de la Chine. Toute cette agitation n'avait pas suffi à imposer la Turquie comme une puissance régionale majeure. Il aura fallu la guerre en Ukraine pour que se réalise ce rêve.
Ah oui, la Turquie a déjà hébergé des discussions entre Russes et Ukrainiens.
Au début de l'été, elle a parrainé un accord pour exporter une partie des céréales coincées dans les ports ukrainiens. Et au début du conflit, deux rounds d'observation entre les frères ennemis à Istanbul, sans résultat. Depuis, beaucoup de sang a coulé sous les ponts du Dniepr. L'armée ukrainienne s'est renforcée, avec le soutien des Turcs notamment. Ses succès dopent Volodymyr Zelensky et il revendique désormais le moindre centimètre carré de tous les territoires annexés par les Russes, Crimée comprise. Il croit possible de vaincre Moscou et de faire rentrer dans le rang les provinces rebelles. Et pour en convaincre ses alliés, il a même pris un décret qui rend légalement impossible toute négociation avec la Russie. Vladimir Poutine non plus n'est pas prêt aux concessions. Il veut garder les territoires conquis et il exige toujours la neutralité de l'Ukraine.
Alors, à quoi joue donc la Turquie avec son offre de médiation, puisqu'a priori elle sera mal reçue?
Mais elle prétend concourir au prix Nobel de la paix, mais en réalité, Erdogan et Poutine sont pareils. Ce sont deux larrons du même âge, qui règnent tous les deux depuis 20 ans, le même pouvoir autoritaire. Ils s'entourent l'un et l'autre d'une cour d'oligarques, ils partagent la même nostalgie des empires défunts et surtout, ils méprisent l'Occident qui les a tous les deux déçus. Ils ont le même horizon désormais, l'Eurasie, le tsar et le sultan se connaissent donc par cœur. Leurs pays d'ailleurs se sont fait la guerre une douzaine de fois depuis le 16e siècle, c'est-à-dire qu'ils ont conclu une douzaine de fois la paix. Avec l'Ukraine, ce sera différent. Cette guerre est un divorce, même si des canaux de négociation directs sont ouverts. Tout compromis ressemblera à un reniement.
Merci beaucoup Vincent Hervouet. Il est 7h46 sur Europe 1.
Europe Matin.
Le livre du jour à présent, Nicolas Carreau. Un livre un peu particulier, vous disiez.
Important. Un livre de Philippe Jaénada, sans preuve et sans aveu, chez Mialet Barreau. Rien à voir avec son œuvre habituelle, c'est un hors-série. C'est un livre que Philippe Jaénada ne voulait pas écrire. Jaénada, je rappelle, c'est un de mes héros littéraires, grand écrivain, spécialisé depuis quelques livres dans les faits divers au long cours. Il s'empare d'une vieille affaire comme dans La Serpe ou Au printemps des monstres et il retourne tout. Il fouille les archives, il retrouve éventuellement des témoins, il reprend l'enquête.
Il fait la même chose dans ce livre-là?
Pas tout à fait. Le truc avec Jaénada, c'est qu'il est extrêmement sympathique et abordable. Et donc, il passe sa vie à écouter des gens qui ont une histoire incroyable pour lui. Je l'ai vu, j'ai été témoin de ça. Des gens qui viennent et qui lui disent, tu sais, mon grand-père, etc., et ma tante, et si je te raconte ce qui est arrivé à un copain de mon cousin, etc., il a l'habitude. Lors de la sortie de son dernier livre, Au printemps des monstres, il se rend à une rencontre dans une librairie au Cap Ferret, La Routine. Mais le libraire lui dit, il faut absolument que tu rencontres mon ami Alain. Alain est dans une mouise pas possible, toi seul peux l'aider. Bon, Philippe accepte parce que le libraire est sympathique. Ils dînent ensemble. Le Alain en question vient effectivement d'être condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de sa tante 17 ans plus tôt. Il avait été acquitté en première instance. Il part en prison la semaine d'après. Jaénada écoute son histoire et il trouve cet Alain Lapri très sympathique aussi, décidément. Surtout, il le croit. D'abord, il ne connaît pas le dossier dans les détails. Et puis, Jaénada se méfie de lui-même. Ce n'est pas parce qu'il trouve quelqu'un sympathique que ça fait un innocent. Mais tout de même, quelque chose grince dans cette affaire. Alors, il met les mains dedans. Il se procure le dossier d'instruction et il en ressort taché de multiples erreurs, approximations et raccourcis en tout genre qui ont quand même mené donc à l'incarcération d'Alain Lapri.
Alors c'est son vrai nom, hein, cet ouais. homme. Hein. Ouais. Il a été jugé, vous nous l'avez dit, condamné. C'est la vérité judiciaire.
Exactement. Et les recours sont épuisés de toute façon. Mais Philippe Jaénada nous raconte et plonge avec nous dans le dossier d'instruction. Et franchement, faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître au moins des manquements. C'était en 2004, mercredi 17 mars, 22h40, à Pompignac, pas loin de Bordeaux. Deux copains voient de la fumée sortir d'une maison. Ils courent, elle est en flammes. Ils entrent, ils voient et sortent une dame qui baigne dans son sang. C'est la propriétaire. Il est trop tard, elle est morte. Elle a reçu un coup derrière la tête et l'enquête commence. Et c'est donc Alain Lapri qui sera condamné. Alors, je vous laisse lire. Mais quand on pose le livre, on est convaincu, surtout si on connaît le sérieux de Jaénada qui ne prend jamais rien à la légère. Jaénada, il est pas en train de dire « je suis le meilleur et moi je sais comment faire » et tout ça. Il regarde juste les faits, il regarde juste les dossiers, il va voir. Il dit « vous avez dit que c'était blanc alors que ben voilà, c'est noir, vous avez marqué 2 alors que c'était 4, il suffit de compter ». Plein de petites choses comme ça, mises bout à bout. Et alors, en plus, bon, c'est quand même son plus produit à Jaénada. C'est-à-dire qu'il arrive même à nous faire rire dans des circonstances aussi terribles parce qu'on n'oublie jamais qu'il y a en ce moment un homme sans doute innocent en prison. En tout cas, maintenant, c'est aussi ma conviction.
Sans preuve et sans aveu, le dernier Philippe Jaénada chez Mial et Barrault. Étonnant, vous m'offrez une transition toute trouvée avec le sujet de notre club de la presse à 8h40. Nous serons en tête à tête avec Christophe Ondelat pour parler de l'affaire Omar Radad. Autre affaire aussi qui en a fait couler de l'encre, qui a suscité l'écriture de plusieurs livres. On en parle parce que c'est aujourd'hui que la commission d'instruction, saisie l'année dernière par la défense d'Omar Radad, va se prononcer sur la demande de révision du procès de 94. Voilà, donc soyez avec nous, avec Christophe Ondelat à 8h40, qui lui aussi est un formidable conteur.
Incroyable.
Merci beaucoup Nicolas, encore une fois un livre à lire, hein, qu'on a très envie d'avoir entre
et
les
200
mains.
200 pages au lieu des 800 pages habituelles chez Jaénada.
Ah bah parfait, ça va plus
quand
vite.
Je vous dis qu'il est particulier.
Allez, un réveil au son du tambour avec vous Marie Jiquel maintenant. Vous nous conseillez ce matin...
C'est pas Rio de Janeiro,
c'est
on
du
dirait
cirque
comme
rock.
Ça, mais
oui.
C'est... Voilà, ça c'est bien à Paris. Hein.
Ça s'appelle Drum Brothers, c'est à Bobino, avant de partir en tournée. Hein.
C'est un cirque rock, un cirque moderne. Voilà, vous attendez pas à voir des animaux, des clowns blancs. Des...
Imaginez Dimitri, les Daft Punk, mais pas version robot cette fois-ci, version caisse claire. Trois frères, les frères Cole, se présentent ainsi sur scène. Avec humour, on va écouter Stéphane Cole, l'un des comédiens jongleurs.
On a tout un attirail de batteries, on est des hommes tambours, c'est-à-dire qu'on a une batterie sur la tête, on a une batterie sur le torse, des batteries aux mains, on avait même imaginé aux pieds, mais ça on l'a pas exploité parce que c'était un peu complexe.
Voilà de quoi donner des idées de costumes pour Halloween. Alors tous les trois ont grandi avec leur propre passion, l'un des frères pour la batterie, les deux autres pour le jonglage, et ils se sont dit pourquoi ne pas tout réunir sur scène. Cela donne par exemple des rythmes réalisés avec des balles de jonglage maracas et d'autres faciès.
C'est un spectacle qui restait très enfantin. C'est qu'est-ce qu'on ferait avec tous ces instruments si on était un enfant. Et voilà, nous, ce qui nous plaît avant tout, c'est le détournement des choses et ne pas faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire voilà, prendre une guitare, ne pas jouer normalement avec et la retourner et en faire une guitare-batterie. La batterie, pareil. Voilà, on a pris des fûts, on les a découpés, on a mis des bretelles et on les a mis sur nous. Et le corps humain devient instrument.
Alors, donc la réunion de famille, ça doit être sympa. Hein.
Et en plus, la famille Cole est pleine de ressources car un quatrième frère se cache en régie et lui se charge des effets visuels. Il y en a beaucoup, des effets de laser, il y a de la lumière dans les batteries. Un spectacle, vous vous en doutez, énergique, accessible aux enfants. Voilà, je pense que la fratrie va donner des vocations. Et enfin, pour les oreilles sensibles, on met des petits bouchons. Hein. Les comédiens sont d'ailleurs équipés des bouchons spéciaux.
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Un tambour, papa. Sympa.
Bah,
les Drum
pas.
Brothers, c'est à Bobby à Paris jusqu'au 29 octobre. Donc vous pouvez aller les voir pendant les vacances scolaires. Ensuite, ils sont en tournée dans toute la France à partir de novembre. Merci beaucoup Marie Jiquel. Un beau spectacle, un bon bouquin. Quoi que demande le peuple. 7h52 sur Europe 1.
Europe Matin.
Le journal permanent Alban Le Prince.
Le retour à la normale se fera dans le courant de la semaine prochaine. C'est le scénario d'Emmanuel Macron, alors que dans les faits, la situation ne fait qu'empirer. La CGT annonce le dépôt d'un référé pour s'opposer aux réquisitions chez Esso ExxonMobil. Force Force ouvrière se joint au mouvement chez Total où les grévistes refusent de débloquer les livraisons. Le syndicat qui appelle aussi à manifester annonce une journée de grève nationale interprofessionnelle pour les salaires mardi prochain, le 18 octobre. 313 signalements en septembre pour atteinte à la laïcité dans les établissements scolaires, chiffre du ministère de l'Éducation ce matin. 54% des incidents recensés le sont pour port de signes et tenues religieuses.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
L'édito politique sur Europe 1, bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri.
Du Figaro, ici même mardi, vous demandiez au gouvernement d'oser la réquisition pour débloquer les raffineries. Alors mardi soir, Elisabeth Borne l'a annoncé, sans vouloir vous faire de peine Alexis, il semble que ça ne soit pas tout à fait la panacée. Pour l'instant, les cuves des stations-service sont toujours aussi vides et les raffineries toujours aussi bloquées.
Bah, et il y a déjà un progrès. Ah oui, jeudi dernier, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, rappelez-vous, nous disait « Il n'y a pas de pénurie d'essence, avec la même force qu'il mettait jadis à nous expliquer, il n'y a pas de pénurie de masques chirurgicaux ». Mais bon, depuis 48 heures, après plus de 10 jours de dénégation, le temps a changé. Tant mieux. La réquisition, c'est une démonstration d'autorité, tardive certes, mais malgré tout bienvenue, et on peut que s'en féliciter. Mais ça n'est pas non plus l'abracadabra qui va tout résoudre. D'autant qu'il faut rester modeste, hein. On parle de réquisition avec un grand R, comme s'il s'agissait d'un coup de force inouï. Enfin, en vérité, ces réquisitions, elles ne touchent pour l'heure qu'un seul dépôt de carburant SO en Normandie, qui n'est même pas une raffinerie. Vu le nombre de blocages, il y a encore de quoi faire. Et à l'heure où nous parlons, ce sont 4 salariés, pas un de plus, qui viennent de recevoir le fameux arrêté préfectoral qui les oblige à aller travailler, arrêté qui conteste aussitôt en référé. Bon, bref, c'est pas l'arme atomique hein, en matière de réquisition. Mmh. Elisabeth Borne, c'est ni Jules Moc, ni Charles de Gaulle, ni Nicolas Sarkozy.
Jules Moc, c'était le ministre de l'Intérieur des grandes grèves de 1947, hein, je le précise. Mais sur le terrain, Alexis, vous pensez que ces timides réquisitions peuvent avoir un effet malgré tout ?
C'est ce que veut croire Emmanuel Macron. Et là, tout de même, il y a un mystère. Comment ce gouvernement, qui depuis le premier jour vit dans l'obsession d'une nouvelle crise sociale, qui dépense des milliards et des milliards pour la désamorcer, comment il n'a à ce point rien vu arriver ? C'est sidérant. Mais bon, essayons d'être positifs et voyons les choses. Il y a 2 jours encore, la direction de Total affirmait qu'elle ne discuterait jamais avec la CGT, qui a même juré qu'elle ne parlerait jamais à la direction. Et pourtant, hier, ils se sont parlé. Alors, ils ne sont pas tombés dans les bras l'un de l'autre, ils ne sont pas mis d'accord, mais enfin, le contact est rétabli. Voilà un petit signe qui peut-être venir à l'appui de l'optimisme affiché hier soir par le président. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a d'autres signes franchement préoccupants.
Alors, vous voulez par exemple parler du fait que Force ouvrière a annoncé qu'il rejoignait le mouvement de grève lancé par la CGT chez Total Energy.
Oui, parce que même si FO pèse pas lourd chez Total, cette contagion syndicale n'est quand même pas de bon augure pour la suite. Mais le plus inquiétant, c'est pas ça. Ce qui est inquiétant, c'est ce qui se passe chez EDF, du côté des centrales nucléaires, à Gravelines, à Cattenom, au Tricastin, à Cruas, au Bugey. Partout, la CGT et FO lançaient la grève. C'est potentiellement catastrophique. Parce que bon, on ne va pas se jouer à se faire peur, les grévistes ne bloqueront pas la production des centrales en fonctionnement. Ce serait terriblement dangereux et même la CGT ne prendra pas ce risque. En revanche, et là, ils ont clairement agité cette menace. Ils peuvent très bien retarder les travaux de maintenance de ces fameux réacteurs à l'arrêt, vous savez, ceux qu'on a débranchés à cause d'un problème de corrosion. Hors de ces réacteurs, nous en avons absolument besoin pour passer sans trop de casse les rigueurs de l'hiver. Et là, il y a un chantage qui est cyniquement assumé. Soit EDF, c'est-à-dire le contribuable, paie les augmentations de salaire, soit les Français manqueront d'électricité cet hiver. Vous avez aimé la crise de l'essence, vous adorez la crise de celle de l'électricité. Et là, il faut dire les choses franchement, on n'est plus du tout dans le domaine du syndicalisme même brutal, même dévoyé auquel la CGT nous avait habitués. Ce serait du sabotage pur et simple, une atteinte aux intérêts vitaux de la nation. Mais enfin là, au moins, le gouvernement est prévenu. Ce coup-ci, il ne pourra pas nous dire qu'il n'a rien vu venir.
Oui, quand on redécouvre à chaque fois le pouvoir des salariés dans les entreprises en monopole. À la une du Figaro, Alexis Brézet, merci à vous. Je la signale cette une, ce sont les blocages, justement, l'exécutif face au risque de la contagion. Bonne journée, Alexis.
C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF. Pour la réservation de vos billets, le portail entreprise SNCF, le site 100% dédié aux entreprises.
Nous sommes le jeudi 13 octobre. Bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous fêtons la Saint-Géraud, fondateur de l'abbaye d'Aurillac, qui fut le modèle de celle de Cluny. Tiens, ça c'est pour votre page culture. Il n'y a pas que dans le secteur de l'énergie que ça chahute. L'Assemblée également, où le camp présidentiel enchaîne les revers dans l'examen du projet de budget 2023. Sacha Houlier, le président de la commission des lois, sera avec nous pour en parler tout à l'heure à 8h13, 7h57. Nous sommes le jeudi 13 octobre, soyez les bienvenus.
7h-9h.
Europe Matin,
Dimitri Pavlenko.
Et le conflit s'enlise donc dans les raffineries. C'est la une ce matin. Échec des discussions entre la CGT et la direction de Total hier. Le syndicat dépose un référé ce matin contre les réquisitions décidées par le gouvernement. Contraints et forcés, les réquisitionnés, eux, rouvrent les vannes chez ExxonMobil au Havre. Objectif, alimenter les stations-service de la région parisienne. Nous serons à l'arrivée du pipeline à Gennevilliers dans un instant. Dans ce journal également, où sont passés les serins des bois, les bergeronnettes ou certaines tortues marines? C'est ce rapport alarmant du WWF qui tire l'alarme ce matin. 70% de la faune sauvage des vertébrés a disparu depuis le début des années 70. Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La sortie de crise attendra encore un peu. Emmanuel Macron espère un retour à la normale dans le courant de la semaine prochaine à la faveur du déblocage des dépôts. Les Français aimeraient bien le croire, mais pour l'instant, les camions-citernes se font rares sur les routes et les cuves des stations restent vides. On va justement faire le point de la situation. Bonjour Baptiste Morin.
Bonjour.
Est-ce que la proportion de stations en rupture de stock est la même qu'hier? Autrement dit, est-ce que les choses évoluent?
Non, la situation reste à peu de choses près la même qu'hier. 31% des stations-service sont toujours en difficulté en France. On reste donc sur cette proportion d'une sur trois. Les stocks stratégiques, les importations, la réorientation aussi des livraisons ont permis d'augmenter l'offre de carburant environ de 20%, mais la surconsommation reste très importante. C'est toujours plus compliqué encore dans les Hauts-de-France, en Île-de-France et en Centre-Val-de-Loire. Et puis si l'on regarde la carte de France ce matin, on observe aussi des difficultés autour de Clermont-Ferrand. Pour les négociations, eh bien elles sont au point mort. La première discussion entre la CGT et Total Energy hier n'a rien donné. Total propose que la grève se concentre sur les raffineries et qu'elle soit levée sur les dépôts pour ouvrir les négociations salariales. Refus catégorique de la CGT et le conflit est aussi entré dans une nouvelle phase hier avec l'annonce par Philippe Martinez du dépôt d'un référé pour s'opposer aux réquisitions ordonnées par l'État.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
Alors détermination de la CGT chez Total avec cette volonté d'élargir le mouvement désormais à tous les secteurs. Le leader syndical Philippe Martinez appelle même à la grève générale mardi prochain. Chez Esso ExxonMobil maintenant, c'est l'autre pétrolier engagé dans ce mouvement social. On s'interroge sur la suite des événements.
Et on va retrouver Guillaume Dominguez en direct du dépôt du Port Jérôme près du Havre. Ce site alimente la région parisienne. C'est là que les premières réquisitions de salariés ont eu lieu. Guillaume, nous étions avec vous il y a une heure. On a senti comme un flottement, une hésitation parmi les grévistes que vous avez pu rencontrer. Est-ce que cette impression se confirme ?
Oui, ça se confirme. Ici, pour le moment, ça commence, le mouvement commence un petit peu à s'essouffler. À l'Assemblée générale de reconduction de grève, ce matin, il n'y avait qu'une quinzaine de salariés pour voter à main levée. Selon les syndicats, près d'un tiers des grévistes ont déjà repris le travail ce matin. Il semblerait donc qu'ici, sur le site d'Esso ExxonMobil, il y ait une reprise légère de l'activité, mais qui ne suffira pas à un retour à la normale, comme l'a annoncé hier soir Emmanuel Macron, selon Germinal Lancelin, délégué CGT de la raffinerie.
Il y a deux travailleurs des expéditions qui ont été requis. Mais effectivement, il y a des expéditions de carburant qui vont reprendre vers le dépôt de Gennevilliers et plus quelques camions locaux.
En parallèle, donc, vous l'avez entendu, deux des opérateurs ont été réquisitionnés ce matin pour ouvrir les vannes du dépôt de carburant. Par ailleurs, les syndicats affirment que le site de Port Jérôme ne suffira pas à remplir toutes les cuves des stations essence, d'autant que pour l'instant, ces stations essence sont toujours destinées aux véhicules prioritaires comme la police, la gendarmerie ou les ambulances.
Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 au dépôt Esso de Port-Jérôme, près du Havre. On part maintenant en région parisienne à l'arrivée du pipeline qui relie le Havre à Gennevilliers. Où vous vous trouvez, Caroline Baudry? Alors, est-ce que ça y est? Est-ce que le carburant coule à flot?
Pas encore, hein, puisque selon nos informations, le précieux carburant devrait mettre 12 heures à arriver dans le dépôt de pétroliers de cette zone industrielle. Wojtek Karnat est responsable des lieux.
Il semblerait que dans notre planification des jours à venir, au moins d'aujourd'hui, on ait un peu de plus de volume reçu. Le flux de sortie va certainement augmenter. Donc je pense que ça va améliorer la situation.
Les arrivées du Havre étaient bloquées depuis deux semaines, mais les immenses réservoirs en métal blanc derrière lui sont remplis de carburant qui provient d'autres raffineries. Le balai des camions-citernes continue donc, mais le flux de camions a baissé depuis le début des blocages. Ariane est chauffeur, son quotidien est bouleversé par la crise.
Le problème, c'est qu'on est obligé de charger super loin et faire moins de tours du coup. Tous les dépôts pétroliers ne sont pas ouverts ou n'ont pas de produits. Du coup, ils n'ont pas de produits, donc du coup, on est obligé de venir ici. Non, un tour, c'est on va chercher du produit au dépôt, puis on retourne à la station dépotée. D'habitude, j'en fais 4 et là, j'en fais 2.
Plus de 16,5 millions de tonnes de carburant passent chaque année dans le fameux pipe. Plus de la moitié est destinée à la région parisienne, ici, à ses aéroports. Et cela représente un quart de la consommation en France.
Caroline Baudry en direct du dépôt de Gennevilliers, près de Paris.
Voilà, et on apprend à l'instant, la CGT nous dit qu'elle reconduit la grève sur les 5 sites du mouvement chez Total Énergie, donc raffinerie et dépôt pétrolier. Pour l'heure, 8h06 sur Europe 1, la guerre en Ukraine, on apprend que la région de Kiev a été à nouveau la cible de bombardements cette nuit.
Oui, attaque aux drones kamikazes. Selon l'entourage du président Zelensky, des infrastructures critiques ont été touchées. Pas davantage d'informations pour l'instant. Bombardements aussi plus au sud sur la ville de Mykolaïv.
Cette info Europe 1 également ce matin. La crise n'arrête pas la flambée des prix des logements en France.
Plus 7,2% en moyenne au niveau national depuis le début de l'année et même plus de 10% pour les maisons. Les prix se stabilisent à Paris, Lyon et Lille, mais progressent de 8,5% à Marseille. Les ventes de logements classés passoires thermiques bondissent, résultat du baromètre de l'immobilier Guy Hoquet.
Les policiers la surnomment l'autoroute de la drogue. On parle de l'autoroute du Nord entre Lille et Paris, la 1. Cette saisie ne risque pas de les faire mentir.
59 kilos de cocaïne, 152 kilos de kétamine, drogue très prisée des clubbeurs, soit un total de 212 kilos de stupéfiants destinés à alimenter la région parisienne. La marchandise et le conducteur de la voiture ont été interceptés à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Et puis, je vous le disais en titre, c'est le constat fait très inquiétant. Par le WWF, près de 70% des animaux d'une population observée entre 70 et 2018 ont disparu.
Un tableau alarmant qu'Europe 1 vous dresse ce matin, c'est la conclusion du rapport Planète Vivante publié tous les deux ans. On apprend que chaque groupe d'espèces dans une zone géographique bien définie a perdu 2/3 de ses effectifs. D'autant plus inquiétant que les raisons de ces disparitions, eh bien, elles sont multiples. Louise Salé.
Oui, le WWF en a identifié 5. Tout d'abord, l'usage des terres, la façon dont l'homme s'approprie la nature via la déforestation, l'agriculture intensive ou encore l'extension urbaine. Ensuite, deuxième cause, la chasse, le braconnage, la surpêche. Puis troisième cause, le réchauffement climatique, un facteur de plus en plus important en passe de devenir le principal. Arnaud Goffier est directeur des programmes au WWF.
Les effets provoqués sur les vertébrés, ça peut être le réchauffement climatique qui induit une destruction de leur milieu via des feux de forêt, comme on l'a vu cet été. Ça peut être des assèchements massifs. Certaines zones humides, le marais Poitevin en France, connaissent des sécheresses qui sont dramatiques tous les étés maintenant, pour lesquelles les amphibiens, les poissons ne survivent pas. Donc c'est ce genre de choses, l'apparition de nouvelles maladies aussi.
Deux autres causes enfin provoquent également le déclin des vertébrés, la pollution et les espèces invasives, ces animaux introduits dans de nouvelles régions par l'homme qui se déplace. L'Amérique du Sud est le continent le plus touché par cette chute du nombre d'animaux sauvages. En Guyane, 95% des tortues-luttes ont disparu en 20 ans en raison de prises de pêche accidentelles.
Louise Salé.
Le football et l'espoir renaît pour l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions.
Allez, victoire 2-0 sur la pelouse du Sporting Portugal qui signifie beaucoup de choses, Jean-François Pérez, pas seulement pour Marseille d'ailleurs.
En effet, c'est un match que l'institution OM n'oubliera pas. Jamais le club marseillais ne s'était imposé au Portugal en Coupe d'Europe. Jamais un club français ne l'avait emporté au pays de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Même la légende marseillaise, Basile Boli, présent hier soir à Lisbonne, en est ressorti impressionné.
Là, on a vu une équipe vraiment solide, confiance à elle, bonne organisation et encore Sanchez, il nous a montré qu'il n'était pas encore fini.
C'est le moins que l'on puisse dire. Le Chilien, 34 ans, s'est battu sur tous les ballons et a inscrit le but du 2-0, servi par le meilleur homme du match, l'artiste marocain Amin Harit, successeur de Dimitri Payet, et grand admirateur de ses coéquipiers chevronnés qui poussent l'OM vers le haut.
On a une équipe avec énormément de joueurs d'expérience, malgré ce que certains ont pu penser après le match de ce week-end face à Ajaccio. Il y a une force de caractère dans cette équipe pour pouvoir retourner les choses et la confiance, bien sûr, qu'elle est présente.
L'OM est ce matin deuxième de sa poule et tout redevient possible. La qualification pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions et pourquoi pas une victoire dimanche dans le classique du foot français face au PSG.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Voilà, OM Tudor, ton moulin va très fort en ce moment. Hein. Igor Tudor, hein, c'est le coach. Hein, c'est pour... Jeu de mots. Merci.
Je l'avais saisi.
Oui, bon, vous, je sais, mais peut-être pas tout le monde. Merci Christophe Lamarre. Dans un instant sur Europe 1, le député Renaissance Sacha Houlier, président de la commission des lois à l'Assemblée, est l'invité politique d'Europe Matin. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Sacha Houlier.
Bonjour.
Député Renaissance, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. La grève se poursuit ce matin chez Esso ExxonMobil, malgré les premières réquisitions. Chez Total Energy, vous l'avez vu, les salariés refusent de débloquer les expéditions pour ravitailler les stations-service. Le mouvement est même reconduit. Vous croyez, comme l'a promis hier soir Emmanuel Macron, Sacha Houlier, vous croyez à un retour à la normale dans le courant de la semaine qui vient ?
Bah, je l'espère, ce serait justifié si les conclusions, en tout cas si les négociations sont conclusives. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une société qui fait des bénéfices exceptionnels, on en a suffisamment parlé, y compris pour l'imposer, on y reviendra certainement. Vous avez des salariés qui demandent leur part de ces bénéfices exceptionnels et une grève qui est la conséquence. Les négociations sont ouvertes et lorsqu'elles sont conclusives, elles débouchent sur un accord. Cet accord est mis en œuvre. Lorsque cet accord est mis en œuvre, eh bien on doit pouvoir parvenir à des déblocages dans les dépôts comme dans les raffineries et permettre à nos concitoyens qui attendent du carburant d'en avoir.
Est-ce que Total doit augmenter les salaires comme vient à l'instant de le dire le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, Sacha Houlier ? Qu'en pensez-vous ?
Mais ça me paraît évident. Regardez, chacun sa responsabilité. L'État, cet été, il a augmenté le SMIC, qui a pris 8% en un an,
8,5%,
les retraites.
Oui.
Toutes les prestations sociales
enfin,
et les fonctionnaires.
Mais c'est indexé sur l'inflation. Hein. Vous n'avez fait qu'appliquer la loi. Bah, hein.
Donc,
c'est pas
alors,
les,
sur le SMIC,
pas,
oui.
Il n'y a pas de coup de pouce.
Sur le SMIC, oui. Non. Sur les prestations sociales, sur le dégel du point d'indice des fonctionnaires ou encore sur l'augmentation des retraites, c'est une volonté politique. C'est l'État qui a augmenté les salaires de toutes les personnes qui dépendent directement des traitements, des salaires, des pensions qui dépendent de lui.
Très bien, mais lundi matin, en Mayenne, Emmanuel Macron dit le gouvernement n'a pas à s'immiscer. Que dirait-on si le gouvernement s'immisçait dans des négociations salariales d'une entreprise privée ?
Précisément. À partir du moment où l'État a pris sa responsabilité à l'égard des personnes qui dépendent de lui, il appartient aux entreprises de prendre leurs responsabilités pour les salariés qui dépendent d'eux. Et donc, par rapport à ces entreprises, eh bien, lorsqu'il y a des bénéfices exceptionnels, ça justifie un partage de la richesse et une augmentation des salaires. Sinon, elle s'expose à ce que les salariés déclenchent un mouvement de grève. Et lorsque ce mouvement de grève est réalisé, il leur appartient ensuite de trouver des solutions. En revanche, lorsqu'une solution est trouvée, et c'est le cas pour certaines des raffineries ou certains dépôts, lorsqu'une solution est trouvée, dans ce cas-là, il doit y avoir une reprise du travail. Et faute de reprise du travail, lorsqu'un accord majoritaire a été trouvé, là, il y a des réquisitions.
Mais c'est la direction des ressources humaines de Total, la direction de Total qui tient un petit peu les clés de la paix sociale en France. Aujourd'hui, Sacha Houlier, quand vous entendez la CGT appeler à la grève générale, quand vous voyez que le mouvement se raidit du côté aussi des centrales nucléaires chez EDF, on sent qu'il y a une atmosphère un petit peu électrique en ce moment dans le pays.
Électrique, c'est tout à fait le bon mot parce que on parle des énergéticiens.
Non, mais
on parle des énergéticiens qui refusent de partager les richesses. Alors c'est pour ça que
refusent de partager les richesses.
Mais parce que on a suffisamment parlé cet été.
Vous savez que les salariés de Total sont actionnaires de l'entreprise à hauteur de 8% du capital.
Précisément, on a suffisamment parlé cet été de la question des taxes sur les bénéfices et sur les rentes. Aujourd'hui, on a des énergéticiens, électriciens ou des producteurs qui se trouvent dans des situations où ils dégagent des bénéfices exceptionnels par une situation de rente. L'électricité, l'énergie est plus chère, donc ils gagnent plus d'argent, grosso modo. Il faut partager. Et donc, par rapport à ça, l'État fera tout ce qui est en son pouvoir, y compris en transposant dans le prochain budget des règles européennes qui vont taxer les profits. Il y a, dans ce qu'on va voter aujourd'hui au Parlement, on va voter une taxe sur les bénéfices exceptionnels des énergéticiens, qui vont être mis à contribution. La taxe sur les super-profits, c'est aujourd'hui à l'Assemblée. Ça va être voté, c'est un amendement du gouvernement. Et puis, on va voter un blocage du prix de l'électricité qui va permettre de dégager près de 20 milliards d'euros de bénéfices.
Alors attendez, j'ai du mal à suivre parce que...
Ce que je vais vous dire par rapport
à ça... Il faut que vous nous expliquiez, parce que vous nous dites on va passer aujourd'hui à l'Assemblée, la majorité relative soutient un amendement qui vise à taxer, je reprends vos mots, les super-profits des énergéticiens. Donc c'est ciblé sur un secteur en particulier. Hier, un amendement est passé à l'Assemblée, présenté par votre allié le MoDem, pour surtaxer les dividendes l'an prochain des entreprises cotées. Les dividendes, alors il y a marqué super dividende, hein, j'ai entendu ça. Mais un super dividende, c'est un dividende. C'est-à-dire dès qu'une entreprise a gagné de l'argent et qu'elle a payé tout le monde. Et ça, en revanche, le gouvernement y était opposé. C'est un peu contradictoire quand même.
Alors, les profits étant les bénéfices exceptionnels réalisés par les entreprises, en tout cas les super profits, les dividendes étant celles qui donnent finalement la richesse qu'ils donnent à leurs actionnaires.
Qui redistribuent aux actionnaires, oui.
Le MoDem a déposé un amendement que personnellement j'ai voté et dont beaucoup de parlementaires de la majorité ont souhaité voter ou tendre la main à l'opposition, ce qui montre qu'il y a une volonté aussi d'une grande partie de la majorité d'avoir des accords, d'avancer sur les textes. Et c'est un peu orthogonal, en tout cas c'est très différent de ce qu'on voit en face de nous, avec parfois des blocs qui votent tout et n'importe quoi pour nous mettre en minorité. Je vous donne un exemple. Sur une loi de programmation, on a eu toute l'opposition, la France Insoumise, le Rassemblement National, les oppositions républicaines, qui ont voté contre le fait qu'on donne 3 milliards d'euros de plus dans les budgets à venir à l'éducation nationale. Est-ce que c'est sérieux ? Donc, nous, effectivement, on peut avoir ce genre de débat entre nous, où on dit est-ce qu'on taxe pas ? Est-ce que, pour le coup, on met à contribution les actionnaires pour financer la transition écologique des entreprises ? On a dit oui. Par contre, on attend que lorsque nous, on tend la main, lorsque nous, on fait ces efforts, lorsque nous, on accepte de discuter, on ait des partenaires en face qui fassent la même chose. Et ça, pour le coup, à l'Assemblée, c'est pas toujours évident.
On reparlera de la séance de l'Assemblée nationale et de ce qui se passe actuellement. Mais juste d'abord, une question. Le programme d'Emmanuel Macron, son premier quinquennat, a été placé sous le sceau de l'attractivité. Est-ce que vous ne craignez pas de complètement casser ce message en parlant de taxer les entreprises qui gagnent de l'argent, les super-profits, etc.
Non, parce que d'abord, les impôts des entreprises ont baissé. De 33 à 25% pour l'impôt sur les sociétés.
Vous allez baisser d'un côté, mais vous allez reprendre de l'autre aussi.
Non, non parce que les exonérations de cotisations ont été pérennisées pour celles qui sont sur les salaires jusqu'à 2,5 SMIC. C'est quoi ? C'est jusqu'à 4 000 euros bruts, exonération de cotisations sur les salaires. Parce que des impôts ont disparu, parce que des investissements ont été soutenus, parce qu'on a pérennisé le modèle fiscal. Aujourd'hui, on a une situation exceptionnelle, une crise. Liés à l'énergie notamment, qui fait que certains font des bénéfices exceptionnels, sans engager le moindre effort pour cela. Parce qu'ils sont assis sur une rente, le prix de l'énergie est très cher, ils dégagent des bénéfices qui sont très importants.
Les salariés de Total qui sont en grève ont-ils engagé un effort particulier qui justifie 10% d'augmentation de salaire ?
Non, par contre...
Enfin, voyez, on peut discuter comme ça.
Ça, c'est pas Sacha Houlier, député de la République, de le dire. Ça, c'est le dialogue social entreprise. En revanche, ce qui est de mon pouvoir de vous dire, c'est que on doit avoir une contribution des énergéticiens sur le fait qu'ils ont des bénéfices exceptionnels, une contribution exceptionnelle au budget de l'État. C'est précisément ce que nous avons fait aujourd'hui à l'Assemblée.
La dernière question que je vous posais était un petit peu une boutade. En tout cas, on sent que peut-être ce qui se passe chez Total, chez ExxonMobil et chez EDF est un peu l'avant-garde d'une immense revendication salariale qui pousse actuellement en France. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Emmanuel Macron, sur cette promesse hier d'un retour à la normale dans les stations-service. Est-ce que ce n'est pas un peu de la parole performative, autrement dit ? Enfin, je le dis, donc ça va se produire, Sacha Houlier. Vous ne craignez pas un raidissement justement des grévistes qui se disent « Ah bah tiens, puisque le président dit ça, ça ne va certainement pas se produire ».
Non, d'abord la situation est quand même très différente selon qu'on se trouve en Île-de-France ou dans le Nord, où elle est extrêmement tendue, ou près d'une station sur deux est fermée, où on a des grandes difficultés
d'approvisionnement. Ça n'est pas simple, toute la région toulousaine, etc.
Et c'est très différent lorsque vous êtes sur la façade atlantique, où la situation est plus détendue. Elle commence à devenir difficile, mais elle est plus détendue. Et donc, il y a une différence territoriale de la France qui fait qu'on ne peut pas parler en absolu. Voilà. Il y a aujourd'hui des dépôts, et je le redis, dans lesquels on a trouvé des accords pour augmenter les salaires. Et je dis « on », les entreprises, avec leurs syndicats salariés. Dans ces dépôts, l'activité doit reprendre. Dans les raffineries qui sont concernées, l'activité doit reprendre. Et si l'activité reprend, alors on a un approvisionnement des stations essence qui reprend aussi. Et dans ce cas-là, effectivement, dans le courant de la semaine prochaine, on retrouve une situation normale. C'est extrêmement pénible pour les gens qui l'attendent.
J'entends bien, mais est-ce qu'il fallait annoncer le recours à des réquisitions, puisque l'on voit que ça a eu un effet finalement plutôt contre-productif, ça a provoqué une sorte de raidissement des grévistes.
Encore une fois, les réquisitions, c'est pas pour tout le monde. Les réquisitions, c'est pas dans toutes les circonstances. Les réquisitions, c'est pas dans toutes les entreprises où on va aller chercher les personnes dans les dépôts ou les personnes dans les raffineries. Les réquisitions, c'est lorsque...
Oui, mais politiquement, vous avez bien compris. Quand on dit pénurie, le mot résonne et n'a pas nécessairement les conséquences que l'on attend.
Lorsque les gens se sont entendus, lorsqu'on a un accord, lorsque les salariés qui étaient grévistes et les directions ont finalement permis de lever le blocage, et bien dans ce cas-là, il faut que le travail reprenne. C'est logique. Et c'est dans ces circonstances-là, et seulement dans celles-ci, qu'on a finalement des réquisitions pour faire travailler. Les réquisitions, elles n'ont pas lieu chez les grévistes. Par exemple, dans les dépôts dans lesquels ça a eu lieu, 4 personnes ont été réquisitionnées, non parmi les grévistes, mais parmi d'autres salariés de l'entreprise.
Sacha Houlier, autre sujet, vous passez beaucoup de temps à l'Assemblée nationale en ce moment, évidemment, c'est le débat budgétaire. Alors, ça ne se passe pas très bien, on le voit, pour la majorité relative, vous enchaînez les défaites. Les oppositions sont parvenues, par exemple, à rejeter hier en première lecture l'article liminaire du projet de loi de finances qui gravait dans le marbre l'objectif de contenir le déficit à 5% l'an prochain. À quand le 49-3, Sacha Houlier, pour abréger vos souffrances Le gouvernement en a validé le recours hier en Conseil des ministres.
Non mais d'abord, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Les oppositions réunies, dans un peu un grand n'importe quoi, ont décidé de rejeter l'équilibre des finances publiques. Voilà. En tout cas, le fait de contenir le déficit à 5% qui était l'objectif que nous nous sommes fixés. Bon, ça dit beaucoup d'une forme d'irresponsabilité qui est la leur de dire bah, « Écoutez, les dépenses publiques dérapent, c'est pas grave. Les impôts ne sont pas appelés, pas grave. »
Elles s'en sont expliquées. Je les ai entendues dire « Oui, mais en commission des finances, tout ce qu'on a dit, ça semblait ne compter pour rien. » Il y avait une sorte de protestation
et
un peu symbolique.
Et on en a tenu compte, puisque vous venez précisément de dire que nous, députés de la majorité, on a été capables de tendre la main sur certains aspects, y compris sur des aspects sur les surdividendes, pour amender notre copie, pour prendre leurs amendements et pour modifier le projet de loi de finances. Donc, de ce point de vue-là, nous, on fait les efforts. Mais les efforts, ça ne peut pas être un monologue. Les efforts, c'est un dialogue. Et si personne ne tend la main en face, effectivement, il y a quelque chose qui pend comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les parlementaires, c'est le 49-3. Moi, je ne suis pas pressé. Je n'ai pas d'attente particulière du 49-3.
Ça peut attendre cet après-midi, par exemple.
Mais ça peut attendre plus longtemps. Si on est capable de s'entendre encore sur des articles, sur des amendements, avançons. Enfin, il y a le coup près, on n'est pas obligé de le faire tomber. On n'est pas contraint de
se
dire...
Pourquoi attendre, Sacha Houlier, très techniquement, puisque finalement, ça semble être l'issue inéluctable de ce débat de budgétaire.
Mais est-ce que c'est l'issue inéluctable ou est-ce que l'opposition veut la rendre inéluctable? Est-ce que l'opposition cherche le 49-3? C'est la question que je pose. Est-ce que finalement, c'est pas eux qui veulent se dire, regardez, le gouvernement passe en force en ayant tout fait pour que cette hypothèse soit réalisée? C'est une question que je pose ce matin.
En attendant, les Français voient les oppositions à la majorité s'écharper sur le projet de loi de finances.
Les Français, ils voient surtout le niveau de l'essence qui descend, et c'est ce qui les préoccupe davantage que
le
débat à l'Assemblée nationale. Je ne me fais pas trop d'illusions sur cette question.
Autre sujet, Sacha Houlier, qui vous préoccupe, la réforme de la police judiciaire. Vous lancez une mission d'information autour de cette réforme qui provoque beaucoup de remous dans la maison police. Alors, ça concerne un petit nombre de policiers, mais c'est très symbolique. Et surtout, l'on voit les tensions que cela provoque. Pourquoi cette mission d'information? Qu'est-ce que, d'ailleurs, vous cherchez à savoir, Sacha Houlier, dans cette mission?
Pour cette mission d'information qui concerne effectivement 5000 policiers, les policiers de la police judiciaire, on a décidé, à la commission des lois de l'Assemblée nationale, de lancer, il y a quelques semaines, une mission d'information sur l'expérimentation. Vous savez que la réforme de la
L'expérimentation,
police...
parce que la réforme est appliquée à titre expérimental dans 8 départements.
Dans 8 départements hexagonaux, en France métropolitaine, et dans tous les départements ultramarins. Donc, le ministère de l'Intérieur doit rendre une copie en disant « on a évalué ». Comme le ministère de l'Intérieur avait un petit peu de retard sur cette évaluation, on a décidé à l'Assemblée de faire cette mission d'information qui est confiée à une parlementaire de la majorité, Marie Guévenoux, et à un parlementaire de l'opposition, Hugo Bernalicis. Ils doivent rendre leur conclusion, j'espère, à la fin du mois de novembre ou à la mi-décembre, pour nous dire...
C'est l'amorce d'un débranchage de cette réforme, Sacha Houlier.
Non, mais non. Il faut regarder ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et puis, sur cette réforme, permettez-moi comme une petite observation, c'est quand même un peu curieux de voir le ministre Gérald Darmanin défendre la position de Pierre Joxe et Jean-Luc Mélenchon celle de Charles Pasqua. Voilà. Pour ce qui concerne de cette analyse, moi je serai à Marseille au mois de novembre, au tout début du mois de novembre, pour rencontrer les policiers de la police judiciaire et pour voir finalement ce qu'il en est sur le terrain, les craintes qui sont exprimées, et puis savoir si ces craintes elles sont justifiées ou non. Et donc je ferai le déplacement en personne en tant que président de la commission des lois pour rencontrer les policiers de la PJ de Marseille.
Dernier sujet, Elisabeth Borne va lancer, Sacha Houlier, aujourd'hui des concertations politiques sur la réforme des retraites avec les patrons de chacun des groupes politiques à l'Assemblée. Sur quelle ligne êtes-vous sur la réforme des retraites, Sacha Houlier? Je vous pose cette question parce qu'on sent que ça tire un peu à la corde au sein même de la majorité. Édouard Philippe disant par exemple le week-end dernier, il faut bouger beaucoup, il faut aller jusqu'à 67 ans. Et Aurore Berger, patronne du groupe La République En Marche, en disant non, c'est surtout pas le projet. C'est quoi le vôtre alors, Sacha Houlier? Où doit aller cette réforme des retraites?
Je pense qu'Aurore Berger a raison. En fait, il ne s'agit pas de dire 60, 65, 67 ans. On prend le débat par le mauvais bout. On ne va pas dire, on calcule une mesure d'âge sans avoir dit ce qu'on voulait faire.
Alors qu'est-ce qu'on veut faire?
On veut financer la retraite par répartition. On veut que tout le monde ait une retraite par répartition. On veut financer des nouveaux droits. On veut dire, est-ce que tout le monde a le droit à une retraite minimum de 1100 euros? Nous, c'est oui. Est-ce que les gens qui ont commencé tôt peuvent partir plus tôt? Nous, c'est oui. Est-ce que les gens qui ont eu des carrières pénibles peuvent partir de façon anticipée? Nous, c'est oui. Et donc, quand on a fait tout ça, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on veut mieux vieillir? Est-ce qu'on ne veut pas tous terminer très rapidement à l'EHPAD? Nous, c'est oui. Pour tout ça, ça coûte de l'argent. Et une fois qu'on a mis en place tous ces droits, combien d'argent faut-il pour le financer? Et en conséquence, quelle réforme faut-il faire? Est-ce que c'est le seul allongement de la durée de cotisation? Est-ce que c'est une mesure d'âge sur l'âge légal de départ? Ça, c'est des questions qui se posent après avoir dit ce qu'on veut faire. Donc je suis d'accord avec Aurore Berger sur cette question.
Merci Sacha Houlier d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la Vienne et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. J'ajoute qu'à l'instant, le groupe Total annonce le versement d'un bonus d'un mois de salaire à tous ses salariés dans le monde, à condition qu'un accord soit trouvé avec les grévistes. 8h28, tout ça va vous être rappelé dans quelques minutes par Alban Le Prince, 8h28.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h31, dans un instant, les signatures européennes. Géraldine Vosner nous parlera des livraisons d'armes françaises à l'Ukraine. Mais d'abord ça, le journal permanent Alban Le Prince.
Et Total Energy annonce à l'instant un bonus exceptionnel pour tous ses salariés. Il correspond à un mois de salaire versé en décembre prochain sous réserve d'un accord. Décision alors que la CGT de Total Energy a voté ce matin la reconduction de la grève et les grévistes refusent de débloquer les livraisons. La mobilisation continue aussi chez Esso ExxonMobil. Les premières réquisitions sont tombées. La CGT déposera un référé aujourd'hui et appelle à une journée de grève nationale interprofessionnelle pour les salaires mardi prochain, le 18 octobre. Une situation très compliquée. Emmanuel Macron tente de rassurer. Le président prévoit un retour à la normale courant de la semaine prochaine. Le nucléaire débraye aussi. Quatre centrales déjà touchées par la grève. Une cinquième aujourd'hui, celle de Gravelines dans le Nord, la plus puissante d'Europe de l'Ouest. La France a commencé à livrer du gaz à l'Allemagne. C'est une annonce à l'instant de GRT Gaz. Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin le dernier baromètre de l'immobilier Guy Hocquet. Et ce qu'on peut dire, c'est que les prix ont explosé cette année, plus 7,2% et même 10,9% pour les maisons. Et puis après la Ligue des Champions, place à la Ligue Europa. Ce soir, trois matchs à l'affiche côté français. À 18h45, Nantes-Fribourg et Dynamo Kiev-Rennes. Et à 21h, Trabzonspor-Monaco.
Merci beaucoup Alban, je fais le tour du studio. Pour annoncer,
c'est sportif, hein.
Anissa Haddadi, le retour de la pluie sur le front de la météo.
Oui, on a des pluies qui circulent aujourd'hui d'ouest en est. Donc là, il pleut déjà sur le grand quart nord-ouest. Du vent également sur les côtes de la Manche. Il va pleuvoir aujourd'hui sur les trois quarts des régions nord du pays. Seul le sud reste au sec entre la Nouvelle-Aquitaine et le pourtour méditerranéen jusqu'en Corse. Le temps reste sec avec de belles éclaircies. Les températures, comptez 15 à 19 degrés sur la moitié nord cet après-midi, 19 à 24 dans le sud et jusqu'à 26 degrés sur le Roussillon et la Corse avant un pic de chaleur qui ne va pas durer longtemps, mais nous aurons un pic de chaleur en début de semaine prochaine où on pourra atteindre jusqu'à 31 degrés en Nouvelle-Aquitaine.
7h, 9h,
Europe Matin. Merci beaucoup, Anissa. C'est l'heure des signatures Europe 1. Emmanuel Ducrot, dans un instant, du journal L'Opinion. Vous avez parlé d'un truc incroyable.
Ouais, vous allez voir, on va penser à l'envers.
Végétarisme et dépression, il y aurait un lien.
Mais pas celui qu'on croit.
Ça, c'est du teasing. Mais d'abord, Géraldine Vosner est avec nous. Bonjour Géraldine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Question ce matin, quelle guerre les Ukrainiens mèneraient-ils sans l'aide militaire occidentale? Emmanuel Macron en a parlé hier soir lors de son entretien sur France 2. Il s'est bien gardé quand même de nous dire l'essentiel, le président, à savoir que bah oui, cette impuissance française dans cette affaire d'armement.
Est révélée de façon assez désagréable, il faut le dire, pour nos autorités ces derniers jours. On pensait la France hyper engagée derrière le peuple ukrainien, la première puissance militaire d'Europe. Imaginez, c'est nous. Elle devait naturellement l'aider à se défendre contre l'agresseur russe en livrant des équipements et des équipements de pointe. On a beaucoup parlé des fameux canons César, rappelez-vous. La réalité, Dimitri, est plus grise. Un think tank allemand a placé récemment la France au 9e rang des alliés de l'Ukraine pour l'aide militaire apportée, 212 millions d'euros en valeur, loin derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne ou même l'Allemagne. Un bilan humiliant pour un pays qui siège au Conseil de sécurité.
Alors oui, ce classement, il vient de l'Institut pour le développement économique de Kiel, pour ceux qui voudraient aller le voir. Ce classement, il est quand même contesté, Géraldine. Il ne prend pas tout en compte.
C'est vrai, et c'est l'argument que martèle le gouvernement. La France participe aussi dans le cadre de l'OTAN. Elle a déployé des hommes en Roumanie, un système anti-aérien, ça coûte. Elle participe encore à la Facilité européenne de paix qui rassemble des fonds pour aider militairement l'Ukraine. 450 millions pour le budget français. Mais il n'empêche, Dimitri, même en intégrant ces données, l'aide de la France n'apparaît quand même pas à la hauteur d'une grande nation militaire qu'elle se targue d'être. Concrètement, on a donné 18 canons César, quelques dizaines de missiles anti-chars Milan, une quinzaine d'anciens canons tractés, des missiles anti-aériens Mistral, tout ça au début du conflit. Il y a aussi des véhicules d'avant blindés qui datent des années 70, des protections personnelles, du carburant, c'est bien, mais ça reste 3 ou 4 fois inférieur à ce qu'ont donné les Britanniques. Du moins, on le présume, et c'est l'autre sujet de crispation.
Eh oui, la France ne dit pas ce qu'elle donne, c'est classé en effet secret défense.
Ouais, contrairement aux États-Unis, à l'Angleterre, à l'Allemagne qui publient des listes précises sans que s'impose le moindre problème. D'ailleurs, le secret défense, quand on veut se faire un peu mousser, c'est quand même bien pratique. Mais ça ne dure qu'un temps. Et sur le terrain, les observateurs voient bien que l'armement français est rare. Le spécialiste des questions de défense, François Hesbourg, s'est rendu sur place dans un centre où transitent tous les achats d'armement. Selon lui, la France pèse à peu près 2% du total des livraisons d'armes, il n'a pas été démenti.
2%, mais pourquoi si peu ?
Mais parce que la France a un problème, elle n'a pas d'armes. Ça fait des années que la défense est sous-dotée. Le budget des armées remonte maintenant, mais ça reste un budget de puissance moyenne, une quarantaine de milliards, un peu moins que la Grande-Bretagne. Et avec ça, on doit financer un porte-avions, des sous-marins nucléaires, un armement de pointe qui maintient notre industrie de défense. On a gardé un modèle d'armée complet, donc on a de tout, mais très peu de tout. On ne peut absolument pas mener une guerre conventionnelle. Les canons César, par exemple, il en reste 65 après ceux donnés à l'Ukraine. Emmanuel Macron, hier, en a promis 6 de plus, mais ce sont des canons qu'on avait déjà vendus au Danemark. Et s'il a promis un système de défense anti-aérienne que réclament les Ukrainiens, on ne s'emballe pas. Hein. Il ne reste que 8 unités Mimba de défense solaire qui sont les plus efficaces. Quelques unités de Crotale NG, c'est probablement ce qu'on va donner à l'Ukraine.
C'est l'armement des années 60, ça. Hein.
Exactement. Donc, en cas de conflit, il faut le rappeler, hein, si on devait faire la guerre, la France, elle peut mobiliser une quinzaine de milliers de soldats, pas plus. Le modèle est complet, mais sans masse. Le seul instrument de la puissance de la France aujourd'hui, c'est la dissuasion nucléaire. Alors, est-ce que c'est toujours adapté ? La question se pose. Et on voit qu'Emmanuel Macron se trouve en position délicate, pris dans un étau, entre l'opinion qui ne comprend pas ce hiatus entre les discours fanfarons de la France et la faiblesse des moyens alignés, et l'armée qui n'a pas envie du tout qu'on lui pique son matériel, et on la comprend. La Grande-Bretagne, dont les forces sont beaucoup moins nombreuses, a fait un choix différent, celui de se priver elle-même d'équipement pour aider l'Ukraine. On conçoit qu'Emmanuel Macron hésite, plus difficilement qu'il n'arrive pas à être transparent sur le sujet.
Très intéressant. Merci beaucoup Géraldine Bosner. C'est Catherine Ney qui sera votre place demain. Tiens, j'ai une petite question pour ceux qui sont autour de la table. Il y en a un qui a arrêté la viande parmi vous. Christophe Ondelat, vous avez arrêté la viande ou pas?
Non,
il n'a pas arrêté. Géraldine Bosner?
Moi, j'ai jamais mangé beaucoup de viande, donc je n'arrêterai pas.
Voilà. Alors, Emmanuel Ducrot, parce que ça, c'est le thème de votre chronique aujourd'hui. Vous nous parlez du lien qui existe entre végétarisme et dépression. Ce n'est pas très rassurant quand même. Hein.
On parle bien de végétarisme et pas de véganisme ici. Hein.
Ah bon? Quelle est la différence?
Eh ben, si vous adoptez un régime végan, c'est plus une philosophie de vie où vous ne consommez aucun produit animal dans aucune étape
de
votre
vie. Le végétarisme se cantonne à l'alimentation.
Exactement.
Alors. D'accord.
Alors, j'ai choisi de vous en parler parce que la lecture d'une étude scientifique brésilienne qui a été relayée en France par le site Slate m'a obligée à penser à l'envers. Et c'est toujours décoiffant d'aller contre ces idées reçues. Alors, cette étude, elle a été publiée par le Journal of Affective Disorders. Elle a été réalisée sur une cohorte très importante, hein, 14 200 Brésiliens entre 35 et 74 ans qui participent dans leur pays à une étude de long terme. Et cette étude, elle montre que les végétariens sont deux fois plus fréquemment touchés que les omnivores par des épisodes dépressifs.
Alors là, on se dit spontanément, c'est parce qu'ils sont végétariens qu'ils sont dépressifs.
Eh bien non, il semble que non. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment contrariant. Les données ont été analysées en fonction de tout un tas de paramètres qui pourraient les parasiter. Hein. Les paramètres sociodémographiques, la consommation d'alcool, de tabac, les apports de micronutriments, de protéines, les apports énergétiques. Et en vain, aucun lien n'a été établi entre le contenu nutritionnel de l'alimentation et les épisodes dépressifs. L'un ne cause pas l'autre, il faut chercher un autre lien.
Alors pourquoi ces épisodes dépressifs sont plus fréquents chez les végétariens que chez les autres ?
Alors pour l'instant, on en est réduit aux conjectures. Hein. Mais la première piste, ce serait que ce n'est pas le fait d'être végétarienne qui rendrait ces personnes plus dépressives, Mais l'inverse, le fait d'être déprimées les inciterait à devenir végétariennes. Pourquoi ? Eh bien parce que la dépression, ça induit souvent des pensées un peu négatives, un sentiment de culpabilité, peut-être un regard plus aigu, plus cru, hein, peut-être plus juste aussi sur les souffrances animales par exemple, sur les grandes questions du monde. Et des personnes déjà inquiètes, peut-être à raison, verraient dans le fait de devenir végétarien un moyen de répondre à leurs angoisses et puis d'agir à leur façon.
Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses ?
Oui, et c'est tout aussi intéressant. Il est possible qu'adopter un régime végétarien cause des dépressions pour des raisons non liées au contenu nutritionnel de l'assiette, mais au partage de la table. Les végétariens verraient leur relation aux autres affectée par leurs choix alimentaires. Un ostracisme social les frappait. Ils auraient l'impression que leurs valeurs, qui sont très fortes, ne sont pas comprises. Là, c'est la sociologie, la psychologie qui devrait entrer dans l'équation pour aider à comprendre le lien entre la dépression et le végétarisme.
Mais parfois, c'est le végétarien qui fait la leçon au mangeur de viande aussi. Bon, en tout cas, ça crée des tensions à table, mais ça ouvre de grandes questions, tout ça.
Des questions vraiment, vraiment passionnantes. Est-ce que les constats seraient les mêmes, par exemple, dans un pays où le végétarisme serait la norme sociale, comme en Inde. Ça serait intéressant de le savoir. Et est-ce qu'il y a une progression du taux de végétarien le fait qu'il y ait une progression du taux de végétarien dans une société implique plus de dépression ou pas ? Alors au Brésil, on a 16% de la population qui est végétarienne, c'est seulement 3% en France. Ce serait intéressant de comparer les deux situations. Et puis, ça souligne surtout un fait fondamental qu'on oublie souvent quand on parle d'alimentation. On calcule la ration énergétique, les nutriments, mais on oublie la lecture culturelle, anthropologique de notre assiette. Qu'est-ce que c'est que rompre avec sa culture alimentaire ? Qu'est-ce que ça fait de nous ? Et à l'heure où on se pose tant de questions sur la façon dont on se nourrira à l'avenir, hein, avec des substituts de viande peut-être, des viandes de synthèse, il faut garder ça à l'esprit. Nous sommes intimement, de nombreuses façons, ceux que nous mangeons.
Avec qui nous mangeons aussi.
Et aussi avec qui nous mangeons, visiblement.
Merci Emmanuel Ducrot. J'en ai vu un qui était pendu à vos lèvres, c'est Christophe Ondelat. Hein. C'est intéressant hein, quand même. Hein.
Très.
Bon, je suis très content de vous recevoir, Christophe Ondelat, dans un instant dans le Club de la Presse Europe 1. Vous êtes une des grandes voix d'Europe 1. Pourquoi vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de l'affaire Omar Radad, l'ex-jardinier ? Aura-t-il droit à un nouveau procès ? On en parle dans un instant sur Europe 1, 8h42.
Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Le dimanche 23 juin 1991, 11h48, Guylaine Marshall, sortant tout juste de la douche, est au téléphone avec une amie. Il est convenu qu'elle déjeune à la maison ensemble le lendemain. Guylaine Marshall se dit pressée, elle doit se préparer pour aller déjeuner chez des amis à 13h. Les deux femmes raccrochent. C'est la dernière fois que l'un de ses proches entendra sa voix. Le lendemain soir, les gendarmes, alertés par les proches de Guylaine Marshall, découvrent son corps mutilé dans la chaufferie de sa maison. Sur la porte de la cave à vin, une inscription en lettres de sang. Omar m'a tué. Qui est cet Omar désigné comme l'assassin de Guylaine Marshall ? Est-ce son jardinier, Omar Radad ? Ce dernier sera condamné en 1994, puis gracié 2 ans plus tard par Jacques Chirac. Gracié, mais pas innocenté. Ce jeudi, aujourd'hui, donc en 2022, la commission d'instruction, saisie l'an dernier par sa défense pour demander la révision du procès, rend son verdict. Et nous avons Christophe Ondelat avec nous en studio pour en parler. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri.
J'ai tenté de faire du Christophe Ondelat. Hein. Je ne sais pas si j'étais au niveau. Mais
le début, c'était mon texte, je crois.
C'est pas vrai.
Ouais, enfin, ça ressemble à ça. Le texte de mon histoire.
Ah ben c'est possible, tous les après-midi.
Sur Omar Radad, j'en ai fait une.
On vous retrouve tous les après-midi sur Europe 1. C'est une affaire passionnante, cette affaire, par ses ingrédients. Hein, la riche héritière, le petit jardinier, les lettres de sang, le scénario du meurtre à la cave aussi, avec la pièce bloquée de l'intérieur. On dirait du Gaston Leroux, fait observer Marie-France Etchegouin dans Elle, ce jour. Et puis il y a cette sentence de 94 qui n'a pas levé toute la part de doute sur la vérité judiciaire. L'institution judiciaire, on sait qu'elle n'aime pas trop se remettre en cause. Qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui, Christophe Ondelat, de cette demande de révision ?
Je peux faire un tout léger préalable. Je veux dire ici, parce qu'on est dans un monde qui est conflictuel, et je ne veux pas qu'on m'attribue une démarche qui n'est pas la mienne.
Vous n'êtes ni pour ni contre Omar Radad.
Strictement ni pour ni
vous
contre.
Vous ne croyez ni en sa culpabilité ou son innocence.
Je crois qu'il est coupable puisqu'il a été condamné par la cour d'assises.
Voilà, la vérité judiciaire.
Ah, je suis très attaché à la vérité judiciaire. C'est la seule référence que nous ayons. En revanche, s'il est démontré qu'il est innocent et qu'il l'est vraiment, alors je serais heureux qu'il soit innocenté.
Alors, pourquoi cette demande de révision ? Parce qu'il y a des éléments qui sont apportés nouveaux par la défense d'Omar Radad, notamment ceux du journaliste Jean-Michel Décugis. Des livres ont été écrits sur cette affaire. Un élément qui paraît assez troublant, à savoir qu'en septembre 2002, une femme va voir les gendarmes de Nice et leur dit « Vous savez, Guylaine Marshall,
Elle était habituée d'un bar qui était tenu quand même par deux truands. Tout ça est un petit peu louche, tout ça est un peu troublant. Et cela contribue à ce que, avec maintenant plus de 30 ans de recul, beaucoup de gens soient convaincus de l'innocence d'Omar Radad. Et ça...
Stop. C'est le mot convaincu. Ouais. Que je trouve scandaleux. Oui. Nul ne peut être convaincu de quoi que ce soit, qui ne connaît pas le dossier d'instruction complètement et qui n'ait pas assisté au procès qui a conduit à la condamnation d'Omar Haddad. Ce n'est pas un sujet mou, la justice. C'est un sujet pointu. On ne peut pas avoir d'opinion. Et il y a trop d'opinions. Dans l'affaire Omar Haddad. Il y a trop d'opinions. Il y a trop de gens qui ont un avis. On n'a pas à avoir un avis sur les choses judiciaires.
Mais la justice a-t-elle été pointue dans le traitement d'Omar Haddad?
Vous savez, dans toute histoire judiciaire, il y a une logique qui conduit à la condamnation. Et il y a la capacité à remonter une enquête à rebours et à trouver plein de failles partout. On le connaît dans toutes les affaires dans lesquelles le condamné nie. Si vous reprenez une histoire à rebours, vous trouverez toujours des incohérences, toujours des insuffisances. Une enquête, une instruction n'est jamais parfaite et ne ferme pas toutes les portes, ça n'est pas vrai. Donc il est aisé de douter quand on remonte une enquête à rebours, mais si on la prend dans le sens, on en comprend totalement la logique.
Oui. Il y a d'autres affaires sur lesquelles tout le monde a une opinion.
Oui.
Vous rangez l'affaire Omar Radad dans cette catégorie-là.
Oui.
Qu'est-ce qui distingue l'affaire Omar Radad du reste des affaires judiciaires, selon vous, Christophe Ondelat?
L'affaire Omar Radad suscite un mouvement qui ressemble finalement à celui de l'affaire Patrick Henry. C'est-à-dire que dans l'affaire Patrick Henry, à la suite de la publication du livre de Gilles Perrault, le Pullo Vert Rouge, les gens se sont fait une idée. Et cette idée était que les gens se sont fait une idée que Christian Ranucci était innocent. Il ne connaissait pas l'histoire. Il ne connaissait pas ce qui avait conduit à la condamnation de Ranucci. Mais le bouquin a entraîné la naissance d'une opinion qui était... Qui considérait que Ranucci était innocent. Mmh. Le bouquin en question était une plaisanterie. Il était bourré d'erreurs. Et il a amené l'opinion française à ne pas croire à une décision de justice. Mmh. Idem dans l'affaire Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage tue son mari alors qu'il est de dos à coup de fusil. Deux fois, la cour d'assises dit « Cette femme mérite pour ce qu'elle a fait 15 années de réclusion criminelle.
Oui. »
Mais l'opinion considère que ça n'est pas comme ça que ça s'est passé et qu'elle ne mérite pas ces 15 années. On a toujours un problème avec l'opinion. Et j'ai peur du poids de l'opinion dans l'affaire Omar Haddad parce que quelle que soit la décision prise aujourd'hui par la commission d'instruction de la chambre de révision, il y aura une insatisfaction. Il y a possiblement une insatisfaction de la part de l'opinion qui ne doit pas exister dans ce dossier.
Vous avez cité les affaires Sauvage, affaire Ranucci. Qu'est-ce qui, dans l'affaire Omar Haddad, parasite l'acceptation tranquille de la décision de la justice, d'après vous, Christophe Ondelat?
Le roi du Maroc. Voilà, ma réponse, elle est claire.
Le roi du Maroc.
Absolument. Les Marocains, comme les Algériens utilisent aujourd'hui les arguments de la colonisation contre la France, etc., les Marocains ont utilisé l'affaire Omar Radan pour en quelque sorte stigmatiser les Français pour le mal qu'ils auraient fait à un Marocain. C'est Jacques Vergès qui vient poser, qui était l'avocat de Maradat, qui vient poser ce sujet au stade politique en disant « Il y a 100 ans, on a condamné un officier parce qu'il était juif, aujourd'hui on condamne un jardinier parce qu'il est marocain ». L'officier en question, évidemment, c'est le capitaine Dreyfus. Et donc, elle va vite sur le terrain politique, puisque dès la condamnation de Maradat, Jacques Vergès, qui était financé par le royaume du Maroc. C'est le roi du Maroc qui paye Jacques Vergès pour assurer la défense d'Omar Radan.
Et c'est tout pourquoi le roi du Maroc fait cela?
Parce qu'il a une opinion, le roi du Maroc. Il a une opinion qui, lui aussi, il a une opinion marocaine qui majoritairement considère que c'est un mauvais coup fait par la France à un Marocain. Et donc cette opinion, évidemment, il s'en saisit à son avantage, pour renforcer sa popularité et sa fonction de leader. Il y a donc la politique s'immisce dans l'affaire Omar Haddad de manière, là aussi, inadmissible. Oui. Et ça se conclut 2 ans après la condamnation de Omar Haddad, par la grâce du président Chirac, qui est un pur scandale. On a une décision de cour d'assises. Il est scandaleux qu'un président de la République intervienne là-dedans et considère que la peine de 18 ans à laquelle était condamné Omar Haddad ne mérite pas d'être purgée.
Mais c'est un geste politique, la Grèce. Hein. La grâce, pardon. Ça n'est pas, je veux dire, une infirmation
de Chirac, il ne sait rien au fond du dossier. Oui. Lui, je pense qu'il n'a même pas d'opinion, Chirac. Oui. Chirac, il répond...
Mais alors, pourquoi la grâce, alors?
Parce que Chirac, à l'époque...
On peut en parler, hein, c'était il y a longtemps, maintenant. Hein,
ouais, Chirac, à l'époque, a une connivence avec le roi du Maroc, une complicité, une amitié forte. On rappelle quand même que le président Chirac passait un certain nombre de week-ends avec l'une de ses maîtresses dans l'un des palais du roi du Maroc. Oui. Donc Chirac, le roi du Maroc lui dit entre deux, tu peux faire quelque chose pour Omar Haddad? Mais bien entendu, je vais faire quelque chose pour Omar Haddad. Et il le gracie.
Qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui la défense d'Omar Haddad comme élément qui pourrait éventuellement inciter la commission d'instruction à ouvrir un procès en révision pour Omar Haddad? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le dossier qui chamboule un peu la vérité judiciaire d'il y a 30 ans?
La démarche de la défense apporte tout ce que l'ADN et la génétique peuvent apporter une enquête qui, alors que ces techniques n'existaient pas au moment où la personne a été condamnée.
Oui.
Donc, assez justement, la défense d'Omar Haddad dit « cherchons de l'ADN sur les portes ». On lui objecte évidemment toujours qu'il y a beaucoup d'ADN sur ces portes parce qu'elles ont été trimballées, elles étaient là au procès, on les a collées au palais de justice à la cave, on les a déplacées parce que c'est encombrant, on s'est demandé ce qu'on en faisait puisqu'il avait été condamné.
Il n'y avait pas le soin apporté qu'aujourd'hui.
Bah oui, il n'y avait pas, l'ADN n'existait pas dans ces portes. Mais, dit la défense, on trouve dans l'inscription Omar Maté, qui elle se situe sur la porte de la cave à vin, on trouve c'est Omar Maté, et puis on n'a pas pu finir d'écrire, et donc le doigt glisse, et on suppose que Ghislaine Marchal, si c'est elle qui écrit Omar Maté de sa propre volonté, meurt à ce moment-là, on voit le doigt qui glisse sur la porte. Il y a, dans le sang mêlé de cette porte, un ADN qu'on va retrouver à plusieurs endroits, et qui correspondrait peut-être avec un suspect qui aurait été découvert au cours d'une enquête de gendarmerie qui est restée secrète entre 2002 et 2004.
C'est
pourquoi cette enquête est-elle restée secrète?
C'est la fréquentation des hommes du bar dont je parlais au début.
Voilà, Ghislaine Marchal dit une dame qui se manifeste en 2002 et pas 10 ans plus tôt. On se demande quand même pourquoi elle attend, parce qu'elle dit « J'ai vu arriver le patron du bar, il avait du sang partout sur lui ». Pourquoi elle ne dit pas ça de 10 ans plus tôt? Pourquoi elle attend 2002 pour venir dire qu'elle l'a vu, ce type, avec du sang sur lui? Ces types-là, ça s'est avéré, connaissaient Ghislaine Marchal, elle allait dans leur bistrot. Et objectivement, ils ont un mobile qui est de piquer son pognon, de faire ouvrir son coffre, dans lequel on suppute, puisque c'est une héritière richissime, les bougies Marchal, qui étaient des bougies pour voiture dont elle était l'héritière. Elle était riche. Et donc, il y a, de fait, mais comme dans l'affaire Omar Haddad, le mobile d'Omar Haddad est supposé être l'argent. Il a besoin d'argent. Elle a retiré du liquide 5000 francs la veille. Mmh. Et cet argent, on ne le retrouve pas. Donc, quand on part sur la culpabilité de Haddad, on dit c'est l'argent. Quand on part aujourd'hui sur la culpabilité de ces quatre bonhommes qui sont supposés être venus tuer Ghislaine Marchal, le motif, c'est l'argent aussi. Mmh.
Alors, la révision d'un procès, c'est une procédure extrêmement rare. Hein. Il n'y a eu qu'une dizaine de révisions, je crois, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On verra ce qu'en dira la justice.
Attention, hein. Aujourd'hui, la commission d'instruction dit on ne va pas plus loin, ou elle dit on continue et on voit si les ADN qu'on a retrouvés correspondent à des gens, et notamment ces quatre bonhommes. Certains sont morts, il va falloir aller prendre de l'ADN à leurs enfants, mais c'est parfaitement et techniquement possible. Ou alors elle dit « j'ai assez d'éléments et je renvoie mon dossier devant la cour de révision ». Mais attendons la décision de la cour de révision elle-même. Elle peut absolument décider, la cour de révision, sur la base du rapport qui lui sera transmis par la commission d'instruction, de ne pas aller au-delà.
Merci beaucoup, Christophe Ondelat. Le générique d'Ondelat raconte en toile de fond. On retrouve tous les jours du lundi au samedi, 14h, 15h. Et je signale, Omar m'a tué l'intégrale. Ça date d'il y a 2 ans, mais c'est toujours d'actualité si vous voulez replonger dans les arcanes.
Avec l'interview de son avocate derrière. Les doutes sont exposés.
Sylvie Noakovitch.
Disponible sur Europe1.fr et seulement sur Europe1.fr et sur YouTube.
Voilà, il dit tout mieux que moi. Merci beaucoup, Christophe Ondelat, d'être venu nous éclairer ce matin sur cette affaire à tiroir, cette affaire Omar Haddad. Pour l'heure, 8h57. Dans un instant, Culture Média, Philippe Vandel au programme. Mon cher Philippe, bonjour.
Bonjour Dimitri, il dit tout mieux que tout le monde, on l'atte. Bonjour Christophe. Deux albums aujourd'hui, deux gros gros albums. Écoutez-moi ce son.
Ah oui.
3 kilos de BD. Le Monde sans fin, BD phénomène, signé Blin pour le dessin. Jean Covici, le polytechnicien, ingénieur absolument brillantissime. Une BD à 29 euros qui en est à plus de 500 000 ventes. Ça vend plus que la littérature générale. Et elle est en train de faire changer les mentalités sur beaucoup, beaucoup de choses, notamment le nucléaire. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est quels sont les biais qui sont dans les médias quand on parle d'environnement. Beaucoup, beaucoup de choses fausses sont racontées. J'ai déjà entendu des journalistes raconter de la puissance d'une centrale nucléaire en volts. Les volts, c'est de la tension. La puissance, c'est des watts. Je dis ça, je dis rien.
Il a bossé.
Non, mais ça me rend dingue.
Souvenir de ton cours de technologie.
Non, mais ça me rend dingue. Mais ça ne devrait pas être oublié. On raconte tellement de conneries. Enfin, il va débugger tout ça et débunker tout ça. Jean Covici, comme on l'appelle. Vernon Subutex. Énorme album, 600 pages, et le tome 2 signé par Luz. Samedi, il y a la Starac qui démarre. On sera avec le producteur et Karim Acharny qui présente l'after. L'after, c'est très important dans la Starac parce qu'ils dorment tous ensemble.
Ah ben dis donc, merci beaucoup Philippe, on va tout savoir.
Et oui, c'est pas comme The Voice. Après, chacun rentre dormir chez soi.
Oui, là ça couche.
Ben évidemment. Oh, il dit tout mieux que tout le monde.
Bonne émission, mon cher Philippe. Ça démarre dans 3 minutes Culture Média. On se retrouve demain matin pour Europe Matin dès 7h. Bye bye, bonne journée.